Warning.
Attention, dans ce podcast, on balance tout plein de spoilers. Vous êtes prévenus.
It would be logical for you to take into account my success rate during our 7 years together and execute my plan without further challenge before we're dragged into war.
Starfleet doesn't fire first. That's all, number one.
We have to.
In my ready room. Now.
Уж не собираетесь ли вы учить меня смыслу жизни?
Une rupture du continuum espace-temps a produit une nouvelle séquence chrono-événementielle.
The robots are coming.
I want more life. Fucker.
24 secondes.
Nous sommes le 25 septembre 2018, bonjour et bienvenue au 55e épisode de 24 Quarks Secondes, le podcast des mordus de cinéma de science-fiction. Je suis Nicolas Petzilas et avec moi, Marie-Louise Gariepi.
Yeah, salut.
Vous pouvez retrouver tous les épisodes de ce podcast sur notre site internet 24quarks.com et puis aussi sur iTunes, où d'ailleurs vous pourrez en profiter pour nous laisser un petit 5 étoiles si vous aimez ça, c'est très apprécié, puis ça nous donne une meilleure visibilité.
Oui, on aime beaucoup les commentaires, même ceux qui disent que je parle trop. Tu l'as vu.
On est aussi...
Alors, à partir de maintenant, je vais...
Tu ne parles plus, moins.
Non, absolument pas.
Non, mais
c'est sûr que c'est bon parce que ça me fait prendre conscience que j'ai un défaut comme si je ne le savais pas. Moi, un de mes amis m'avait dit que je parlais tout le temps, mais qu'au moins ce que je disais, c'était intéressant. Donc, je m'étais dit que c'était correct que je parle trop, que ça passait comme bien pareil. Mais ça a l'air que pour l'auditeur, que je me rappelle plus son nom, qui a laissé un commentaire, qui adore le show, sauf la fille qui parle trop. Ce qui est quand même plus que 50% du show, puisqu'elle parle trop. juste de même, mon ami. Mais bon, je vais faire un effort pour t'écouter plus, Nick. Je suis désolée. Quand on a des invités, je suis moins pire, je pense.
On est aussi sur RZ Web, sur Balado Québec, sur Pod Québec. Donc, on est un peu partout. Donc, n'hésitez pas à parler de nous autour de vous. Voilà. Et puis si l'envie vous prend de réagir à une discussion, de commenter, de nous faire des suggestions de films ou whatever, vous pouvez nous contacter sur notre page Facebook ou par courriel à 24quarks@gmail.com.
Yeah.
Voilà, et aujourd'hui on retourne à la série télé, ça faisait un bout de temps qu'on n'avait pas fait de série télé, hein, me semble-t-il.
Ouais, ça fait un moment.
Ça fait un moment, je me rappelle plus c'était quoi la dernière.
Ça demande un grand investissement la série télé. C'était pas Battlestar Galactica la dernière?
Ça serait la seule qu'on a faite alors? On en a rien,
non, on
n'a
pas fait Firefly.
Non, pas encore.
On n'a pas. Ben oui, ça serait la seule. Non, on en a fait une autre, il me semble, série télé.
Là, j'ai un blanc. Ça se peut, j'ai un blanc là.
On a fait Westworld.
Oui.
Westworld.
Oui,
donc, ça serait
sûr,
depuis Westworld, on n'a pas fait de série télé. Puis, on n'avait pas fait Black Mirror?
Pas encore.
On n'a pas fait Black Mirror?
Non, pas encore.
Oh! On en écoute quand même des séries télé de science-fiction, puis on n'a pas fait l'autre que je veux faire.
Expanse?
Expanse, je n'ai pas fini encore, mais ça serait vraiment bien de faire The Expanse.
Ouais,
parce
que je me remette à jour, là, j'ai perdu le... Ouais, c'est bien.
Moi, j'aime The Expanse beaucoup. Puis,
on en avait parlé déjà, mais on n'a pas fait un épisode.
Ça serait Altered Carbon qui serait intéressant
Altered
à faire.
Altered Carbon, je n'ai pas vu encore.
Bon, c'est Netflix, puis ça reste la série. Sinon...
Ah oui, il n'y a pas de... D'ailleurs, donc cette série dont on va parler aujourd'hui, bien sûr, vous le savez, c'est du contenu tout neuf, puisqu'il s'agit de la toute récente première saison de la nouvelle série Star Trek Discovery,
mm-hmm.
qui a été diffusée sur CBS All Access aux US, puis sur Space au Canada. C'est tourné à Toronto. Je sais pas si ça a à voir avec ça, mais c'est tout tourné à Toronto.
Ouais, j'ai aucune idée pourquoi, mais ça passe avant au Canada.
Ouais,
mais quoi, une demi-heure avant ou
Ouais, ouais, genre une demi-heure avant,
ouais,
un truc comme ça.
Yeah, Canada, go.
Yeah. Puis je crois que c'est Netflix pour le reste.
Absolument, et je peux te le confirmer
pour
parce
le reste
que
du monde.
Moi j'ai pu l'écouter pendant que j'étais en voyage au Japon. Plug, j'étais en voyage au Japon, yeah, c'est le fun. Et puis grâce à ça, parce que je l'avais sur Netflix là-bas, ici je ne l'ai pas sur Netflix.
Ouais.
Mais un petit détail cocasse d'ailleurs sur la version Netflix. La version Netflix, elle est sous-titrée dans les langues locales et en Klingon.
Non, t'es sérieuse?
Vous pouvez...
sérieux?
Oui, vous peut m'écouter.
Oh, ça, c'est
sous-titré
drôle.
En Klingon. Puis c'est extraordinaire.
Attends, sous-titré en Klingon.
Sous-titré en Klingon.
C'est pas entièrement doublé en Klingon, là, c'est
sous-titré. Non, c'est du sous-titrage. Non, ben, c'est comme quand t'écoutes un film japonais, il est sous-titré en anglais ou en français. Ben là, ouais. T'as Netflix en anglais, sous-titré en Klingon. Alors,
c'est
quand il parle anglais, t'as les sous-titres. Ah oui, c'était juste très
ça. C'est extra, je savais pas du tout.
J'adore ce genre de personnes qui perdent leur temps.
Ça, c'est pas dans les trivia, par exemple.
Non, mais ça m'a donné envie de. Ouais, non, des fois, on dit des choses que ça me donnait envie d'apprendre.
C'est celle-là spécifiquement ou est-ce que c'est toutes les séries Star Trek? Parce que je checkais sur Netflix, puis nous
j'ai
autres,
pas,
on a...
J'ai pas vérifié les autres.
Faudrait que j'aille voir, là. Nous
mais
autres,
je pense
on
que
a,
c'est juste Discovery,
on a pas mal toutes les autres dans la série originale, Next Generation.
Ils sont toutes là.
Enterprise, Voyager, Deep Space Nine.
Ils sont toutes là. Ils sont toutes là. Laisse-moi penser. Ben, il y a peut-être pas la série animée.
Si.
Il est là? Le Star Trek animé?
Il me semble qu'elle y a.
Que je savais même pas qu'il existait.
Moi non plus.
Je l'ai découvert il y a pas longtemps. Ça m'a comme fait peur, tu sais, que ça existe puis que je savais pas que ça existait parce que quand j'étais petite, j'ai tellement de fois écouté l'original, mais en tout cas, anyway, c'est une découverte.
Ouais.
Alors,
donc
Netflix. Donc Netflix, c'est tout le Star Trek, là, tout.
Ça a l'air que oui. À part, chez nous, il n'y a pas Discovery.
Mais il l'a, c'est ça, comme dans le reste du monde.
Ouais.
Puis, sous-titré en Klingon pour les grands fans.
Ça, c'est vraiment drôle. voilà, donc on va rentrer dans le vif du sujet, mais avant je voulais juste faire une ou deux petites plugs. Récemment j'ai vu le film Upgrade, je sais pas si t'as entendu parler de ça. C'est un film qui est sorti il y a pas très longtemps, là, qui est sorti, je sais pas s'il est sorti en salle, mais en tout cas il est arrivé sur VOD, sur iTunes et compagnie, là, il y a pas très longtemps. Là. C'est un film de Lee Whannell, c'est produit par la maison Blumhouse, enfin Tilt en fait, qui est comme la branche sci-fi de Blumhouse, qui est un nouveau label de films d'horreur, là, qui marche super fort, là. Ils ont une sélection de films qui marche très, très fort. T'sais, ils produisent des films à très petit budget, puis ils scorent beaucoup, là.
C'est-tu ce Paranormal Activity ou je me...
Ça se peut que ça soit
Blumhouse.
Je pense que c'est... Il me semble que c'est eux qui ont Get Out, qui ont des films comme ça, tu sais, Don't Breathe, tu sais, qui ont tous ces films-là... assez récent, là, qui marche fort, quoi. Et donc, je ne vais pas dire de bêtises, mais il me semble que c'est eux qui ont Get Out et tout ça. Puis, donc, c'est sorti chez eux. Puis, écoute, c'est un film... c'est un film assez intéressant qui se passe dans un futur proche où la technologie a avancé, a fait grands pas, tu sais. Mm-hmm. Puis, on suit un personnage qui lui-même est un peu technophobe, en fait. Tu sais, il est encore mécanicien sur des bonnes vieilles muscle cars et des trucs comme ça. Tu sais, il travaille pour des gens qui ont beaucoup d'argent. Mais lui-même, c'est un gars finalement assez simple. Il aime bien les choses simples, tu sais.
Mm-hmm.
Et puis, il se trouve embarqué dans une histoire où ils finissent, lui et sa femme, par avoir un grave accident d'auto. Et puis, qui n'est pas un accident, en fait. Et sa femme meurt.
Ok, chouette.
Lui échappe de justesse. C'est un revenge movie, en fait. C'est un revenge movie, c'est-à-dire que lui, par la suite, il va chercher à se venger. Et il se trouve qu'il se fait implanter une espèce d'intelligence artificielle, une espèce d'upgrade. Il se fait upgrader, avec un implant qui s'appelle STEM, puis qui le rend augmenté, si tu veux.
C'est bon.
À qui il peut parler, c'est une espèce de voix qu'il a dans sa tête, etc. Et c'est un film très brutal, c'est très violent, très brutal. mais il y a un truc très cool, tu sais, il y a pas mal d'inventivité au niveau de la caméra, les acteurs sont très bons, enfin l'acteur principal est très très bon, je trouve. Je le connaissais pas bien, ce gars-là, et je me rappelle plus son nom, il a un nom composé dont que j'ai pas en tête là. Mais ça vaut le coup de voir ce film. C'est vraiment... c'est un bon revenge movie de sci-fi avec des petits éléments gore, parfois.
C'est un bon
divertissement. Ouais,
ça va un peu
bon,
avec Blumhouse aussi, ce petit
ouais,
côté...
Ouais, c'est ça. Il y a un petit côté... c'est pas de l'horreur, là, mais c'est violent, là.
C'est violent, comme
ouais,
ça rentre dedans.
Ouais. Puis c'est, je trouve, bien construit, bien foutu.
Mais c'est ça, intéressant. Juste pour confirmer, là, j'ai ouvert la page Wikipédia de Blumhouse, puis c'est effectivement eux qui ont fait Paranormal Activity,
okay.
The Purge,
voilà,
Insidious,
The Purge, ils sont,
Get Out... Sinister,
en tout cas, il cartonne très fort cette boîte-là.
Upgrade est là. Puis oui, ça, c'est une boîte que moi, j'admire beaucoup parce qu'ils font quelque chose que personne en cinéma fait, c'est-à-dire ils donnent un budget au réalisateur puis ils disent c'est ton budget, puis tu peux pas aller plus haut, plus bas que ça. Puis ils font plein de petits films à petit budget.
puis ça marche, quoi.
Puis, ben oui, parce qu'à un moment donné, c'est juste, c'est la force du nombre. Tu sais, pour 10 films qui ne marchent pas, il suffit qu'il y en ait un qui cartonne, puis ils remboursent les 10 autres.
Non, mais je crois qu'ils vont chercher en plus des réalisateurs inventifs, tu sais, qui utilisent leur budget intelligemment, puis qui font des bons films, qui sont créatifs, puis ça marche, quoi.
Oui, ils doivent laisser une belle marge de manœuvre créative aux gens avec le budget. Il ne faut juste pas que tu dépasses ton budget.
C'est vrai que c'est un peu le pendant aux méga productions hollywoodiennes.
J'avais écouté un podcast sur, je pense que c'était Planet Money, qui parlait de ce modèle d'affaires-là. Sauf Freakonomics, là, je les mélange toujours, ces deux podcasts-là. Mais je pense bien que c'est Planet Money. Puis ils décrivaient tout le modèle d'affaires. Faudrait que je le retrouve d'ailleurs, puis on pourrait le mettre dans les plugs, parce que c'était super intéressant, parce que ça racontait toute l'histoire. Ben oui, parce que ça racontait l'histoire d'un cinéaste qui, lui, était pas super content. Tu sais, c'était un gars qui avait fait des gros films, là, à plusieurs millions, 200 millions. Ouais. Je pense que c'est lui qui faisait les speeds, si je me trompe pas, ou quelque chose comme ça, tu sais.
Ah, OK, ouais.
Puis là, il se ramasse, qu'il fait une couple de mauvais films, puis personne ne veut l'engager. Donc là, il s'est ramassé là. Mais l'histoire est vraiment intéressante pour le modèle d'affaires. Mais...
OK, c'est cool. Enfin, en tout cas...
Faudrait que j'en trouve le podcast. Mais
cas,
bref,
Upgrade, c'est un
autre bon petit film qui est sorti de cette boîte de production-là.
Ouais, c'est ça.
Puis ton autre plug, t'en avais un autre?
Oh, mon autre plug, c'était le jeu Spider-Man sur PS4.
Je m'excuse, mais là, tu vas dans les super-héros. J'ai vu sur le site Facebook que tu fais des petites entourloupettes dans lesquelles, comme quoi, il y aurait peut-être un débat, comme quoi les super-héros, science-fiction, c'est même pas un débat, là, c'est comme résolu. Moi, j'ai résolu la chose. Super-héros n'est pas science-fiction.
Non, mais il y a le... Je veux dire, maintenant, on est, tu sais, avec les Gardiens de la Galaxie, tout ça, on est passé à la branche cosmique, tu sais, de Marvel, tu sais, typiquement.
Ouais, les Gardiens de la Galaxie, puis, je les mettrais dans le space opera, là.
Voilà. Donc sci-fi, tu sais. Ouais. Puis, Captain Marvel, dont j'ai mis la bande-annonce sur notre Facebook, ça fait partie de ça aussi. Ça fait partie de la branche cosmique, là, de la branche, tu sais. Mm-hmm. Donc c'est pour ça que j'en ai parlé, parce que la bande annonce était bien sympa, puis on l'attend tous avec impatience. mais non, je voulais parler de Spider-Man. Oui, je sais, c'est pas vraiment de la science-fiction, bien qu'il y a une dimension scientifique dans Spider-Man, parce que Peter Parker est un scientifique, il travaille sur des choses.
Superman, c'est un extraterrestre.
Mais je suis dans Marvel, je suis pas dans DC.
Non, je sais, mais je veux dire, je te disais juste qu'on peut aller chercher.
Bref, ouais, je vais pas m'étendre sur Spider-Man, c'est juste.
Mais pas Batman. Batman, c'est juste un riche avec des gadgets, tu sais.
C'est ça.
C'est comme James Bond, Batman, on est d'accord.
D'ailleurs, c'était la meilleure réplique dans Justice League.
Ah ouais?
À un moment, il y a le jeune gars qui joue Flash qui lui demande, so what's your superpower? Puis Bruce Wayne répond, I'm rich. c'est la meilleure réplique du film. Mais donc, je voulais juste faire une petite parenthèse avec le jeu de Spider-Man, parce que je pense que je suis comme tout le monde à être un peu obsédé par ce jeu, parce qu'il est tellement réussi puis tellement fun, tu sais, que j'ai déjà passé pas mal d'heures dessus. Mais voilà, donc c'est juste le fun. Je sais que t'aimes les jeux vidéo, que tu joues pas souvent, mais que t'aimes ça.
Oui, non, mais moi, c'est parce que c'est de la cocaïne, les jeux vidéo, là. Ouais, c'est vraiment pas parce que...
Bah, typiquement, là, Spider-Man, c'est pas mal. C'est de l'héroïne même.
Je pourrais peut-être m'y mettre le jour où est-ce que j'aurai...
du temps.
Je sais pas, à la retraite, là, ou quelque chose comme ça, là. Si jamais j'ai une retraite. Mais j'arrive pas à voir où est-ce que les gens ils trouvent le temps de jouer à des jeux vidéo.
La nuit.
Oui, mais il faut dormir.
C'est pour ça que je suis en manque de sommeil.
J'essaie de dormir un peu, là.
Anyway, c'était tout pour mes petites plugs. Toi, t'as
non, j'ai, écoute, j'ai commencé à écouter deux films de science-fiction dans l'avion.
Ouais.
Parce que j'étais en voyage, je viens de le dire.
Ouais.
Excusez, je suis fatiguante. J'ai vu Godzilla à Tokyo.
Le Godzilla, le dernier...
Non, le monstre qu'ils ont construit dans Shinjuku.
Je crois que tu avais parlé de deux films. C'est pour ça.
J'en ai-tu déjà parlé? J'en ai peut-être déjà parlé, par exemple. C'est ça que je retiens. Mais je suis en train d'écouter un podcast que vous devez absolument, vous qui aimez la science-fiction, que vous devez absolument écouter. Ça s'appelle Future Thinkers. Et c'est excellent. Alors, c'est comme deux animateurs. Puis là, ils sont rendus à l'épisode 63.
Future Thinkers.
Future Thinkers Podcast. Ils sont revenus en 1963, puis ils délirent complètement sur ces deux jeunes personnes. Ils trippent sur des espèces de concepts du futur, mais c'est à la fois ésotérique, à la fois scientifique. Ils trippent sur le transhumanisme, ils vont parler du Bitcoin et tout ça. Il y a un petit côté anarchiste. Moi, je trouve ça hyper sympathique. Probablement utopique, puis on comprend probablement complètement dans le champ, comme toutes les gens qui trippent sur le futur, mais il y a comme cet aspect, il y a quelque chose qui me plaît parce que il y a comme une sorte de positivisme par rapport à qu'est-ce que le futur va être, puis ils sont toujours en réflexion, puis ils expérimentent avec c'est quoi être aujourd'hui une personne, donc ils sont nomades, entrepreneurs, des techno-nomades, ils trippent sur la technologie, l'Internet, toutes les possibilités, puis ils discutent de ça avec des invités qui sont un peu de tout acabit. Donc, ils aiment beaucoup l'idée de l'augmentation, d'augmenter leur connaissance. C'est vraiment amusant, c'est intéressant. Moi, c'est pas de la science-fiction, mais je dirais que c'est ce dont les gens qui aiment la science-fiction peuvent se nourrir pour créer de la science-fiction.
Okay.
Parce qu'ils vont chercher vraiment toutes ces espèces. Puis il y a un côté, je dirais des fois, je trouve ça un petit peu farfelu, tu sais. Mais c'est jamais stupide, c'est toujours avec une petite finesse de presque créative ou artistique dans leur appréhension des choses. Puis des personnages, tu sais, à un moment donné, ils font toute une série sur un personnage qui aurait eu l'illumination, le fameux truc hindouiste, quand tu fais du bouddhiste, t'atteins l'illumination, puis... C'est donc extraordinaire, mais le personnage qui a vécu ça, il banalise la chose, puis il essaie de dire ça veut rien dire parce qu'il y a plein de gens qui ont l'illumination puis ça n'a rien donné. Puis donc il y a quelque chose d'intéressant avec ce petit côté-là, comme une sorte d'idée que oui, tu peux avoir une illumination spirituelle, mais qu'est-ce que t'en fais, puis ça veut dire quoi dans la modernité? C'est vraiment, vraiment intéressant.
Donc, cool. Je le conseille. Donc, Future Thinkers.
Future Thinkers Podcast. J'ai eu beaucoup de fun à écouter ça.
Star Trek Discovery. Alors, yeah. J'ai cherché à faire un résumé du film et j'avais un peu de mal
de
à faire...
Série.
De la série. Ben justement, je pense que le fait que c'est une série, c'est un peu difficile à résumer. Je veux dire...
Tu peux comme aller
USS Discovery.
on peut comme essayer quand même de résumer un peu pour les gens qui ont besoin d'un petit rappel, qui ne l'ont pas vu depuis longtemps. C'est que Star Trek Discovery, ça passe avant...
Alors, ça se passe 10 ans avant
la série originale. Ouais. Et on est en pleine guerre avec les Klingons. Donc, tout est lié autour de
en
ça.
En fait, les
Klingons vivent une espèce de guerre de dynastie interne.
C'est ça,
qui joue sur le terrain de la Fédération. Parce que pour justement unifier les Klingons, il y a comme une espèce de volonté d'attaquer la Fédération qui est vraiment méprisée par les Klingons. C'est comme une sorte de... Donc, les humains se retrouvent victimes, en fait, d'une guerre qui a vraiment lieu entre les Klingons.
Ouais. Au tout début de la série, c'est pas encore la guerre.
C'est pas la guerre. Ça commence le premier épisode.
À cause de l'erreur de Michael Burnham.
On pourrait dire l'erreur de...
C'est pas une erreur, mais je veux dire l'acte de défense, en fait, de légitime défense de Michael Burnham déclenche la guerre, finalement.
Oui, mais on pourrait très bien dire aussi que c'est l'erreur du capitaine...
Philippa Georgiou. Hein.
Ouais, ça pourrait être son erreur à elle qui a déclenché la guerre parce que elle a pas écouté Michael qui elle avait une information qui lui disait qu'il fallait faire preuve de force pour que les Klingons fassent juste il fallait les attaquer. Ouais, mais la fin remarque a tendance à redonner raison au capitaine Georgiou, la fin de l'épisode.
Ouais, la fin de la série.
Dit qu'on doit rester qui on est et non pas devenir...
Ouais, qu'elle avait fait une erreur, etc.
Non, c'est ça. Mais c'est pas évident tout le long de la série. Mais oui, finalement, on suit Michael Burnham qui, elle, est à l'origine et qui est considérée comme une traite et envoyée en prison, mais va se retrouver par certaines circonstances sur le navire Discovery qui est l'espoir de guerre pour sauver les Klingons. Ouais, et comme elle est particulièrement...
Le vaisseau, un peu le flagship, comme on dit en anglais.
Oui, ou l'arme secrète.
L'arme secrète de Starfleet pour possiblement mettre fin à cette guerre.
Pour ça, mettre fin à la guerre. Et donc, comme elle est, une stratège très importante par sa formation chez les Vulcains, puisqu'elle était adoptée par le père de Spock. Donc, ouais. Qui s'appelle...
Sarek.
Ah, man, t'es meilleur que moi. Je connais plus Star Trek, puis t'es meilleur que moi. Sarek, je suis vraiment pas bonne à m'en rappeler. C'est pour ça que je parle trop, je cherche toujours mes affaires. Donc, Sarek, donc, elle a été éduquée chez les Vulcains. Et donc, c'est quelqu'un qui a une perspective, une intelligence, une capacité d'analyse supérieure. Et donc, le capitaine de Discovery va la prendre sous son aile, même si elle est renégat, même si elle est condamnée à la prison, même si elle est considérée comme la personne qui a causé la guerre et que tout le monde la déteste violemment. Ouais. Et elle se retrouve donc un peu le héros de cette histoire. Et quand en le racontant comme ça, ouais, en le racontant tout ça, moi, ça me fait que, et je sais qu'il y a beaucoup de fans de Star Trek qui détestent Discovery, mais moi, ça me fait aimer beaucoup cette série-là parce que je trouve qu'il y a comme une... c'est très intéressant de centrer l'épisode sur ce personnage-là plutôt que sur un capitaine et ses
sous-fifres. Et son équipage, ouais.
Ouais. Ouais. Et donc, il y a comme une, il y a comme un choix narratif vraiment, vraiment intéressant.
Ben alors, justement, parlons-en, parce que toi, t'es plus cultivé que moi en matière de Star Trek.
Moi, j'ai plus d'expérience,
ok. Moi, j'aime Star Trek, mais je suis pas un Trekkie, j'ai pas tout vu, j'ai vu une partie de la série originale, j'ai jamais vu Next Generation. Ben, j'ai vu un petit bout de Deep Space Nine.
Ben,
je pense que j'ai quasiment rien vu. J'ai peut-être vu un peu d'Enterprise. Enterprise, c'est avec. C'est aussi avec Kate Mulgrew, qui est la capitaine, c'est ça, hein?
Non.
Enterprise. Ça, oh non, c'est Voyager. Voyager, pardon. Donc c'est Voyager que j'aurais
c'est
vu.
C'est Captain Archer dans Enterprise.
Ok, excuse-moi. Là. Désolé, j'attends vos emails d'insultes. Non.
Je veux juste mettre une perspective, moi aussi. Ouais, donc c'est ça. Toi, tu connais Star Trek parce que c'est quand même dans la culture populaire.
Ouais.
On passe pas à côté.
Star Trek et un peu ce que Captain Kirk. Ouais, oui, bien sûr. Kirk, évidemment, c'est ce que je connais le mieux. Je connais les films. J'ai vu tous les films avec l'ancien équipage. Nemesis, c'était déjà le nouvel épisode, le nouvel équipage, je pense. Mm. En tout cas, j'ai vu 5 films avec l'ancien équipage. Je sais plus si j'ai vu le film
avec les deux, là.
C'est Generation, ce qu'il s'appelle?
Oui, c'est Generation, ouais.
Ok, là où il y a les deux équipages, ça, j'ai pas vu. Mm. J'ai vu Nemesis, qui, je pense, est avec le nouvel équipage. Mais toi, je m'en souviens, ça fait longtemps,
ça,
je m'en souviens pas très bien.
Ça, c'est Next Generation. Quand tu dis nouvel équipage, je parle de l'équipage.
Oui, de l'équipage de Next Generation, donc Picard et compagnie. Donc ça, je pense que Star Trek Nemesis, c'est ça.
Ça, je l'ai pas vu, je suis pas sûre. Peut-être
ah non, c'est First Contact. Attends.
First Contact.
First Contact, c'est Picard.
Ouais.
C'est mêlant, il y en a tellement.
Mais
Sinon, j'ai vu les trois derniers, les trois reboots de J.J. Abrams. Enfin,
oui, les films.
Qui ont été
donc, démarrés. Toi, t'as vu les films, t'es plus dans les films.
Ouais, je suis plus dans les films plutôt que
la vieille série. Ouais.
Okay. Et puis la vieille série. Le plus que j'ai vu de série télé, c'est évidemment la série originale. Ça, c'est le plus que j'ai vu, mais je ne l'ai jamais vu en intégralité. Quoi.
Moi, je ne me considérerais pas une Trekkie. Donc, alors, désolé, j'ai essayé d'avoir des Trekkies avec nous, mais...
Ils ne veulent pas.
Non.
Ils détestent tous Discovery.
Mais c'est parce que j'ai eu deux, j'en ai contacté deux qui étaient comme un petit peu rébarbatifs. Là, j'ai comme une idée d'un troisième, mais là, je me trouvais trop dernière minute, puis j'étais un peu gênée de l'inviter aussi dernière minute. Puis je me suis dit que ça serait peut-être plus le fun à un moment donné d'inviter plusieurs Trekkies autour de la table, puis faire... parce que c'est quand même important.
Être, ouais.
C'est
ça,
très
ça
important, Star Trek.
Ça l'occasion de faire un épisode avec plein de monde, puis on parle de Star Trek.
On les réinvitera, puis j'avais pas eu l'occasion de t'en parler non plus.
C'est Benoît Mercier des Mystérieux Étonnants qui est un fan de Trek. On l'avait eu.
J'en ai pas parlé à Benoît, mais c'est parce que c'est ça, à un moment donné, là, il y a comme trop de choses qui se passent.
Puis on n'a pas
un Trekkie autour de table. Par contre, moi, j'ai quand même une bonne base de Star Trek. Puis c'est, j'avoue que Star Trek, c'est une série que j'aime beaucoup par rapport à qu'est-ce que ça représente dans la science-fiction. J'aime beaucoup, beaucoup, beaucoup cette série-là parce que c'est quelque chose qui donne le goût de la science aux gens d'une façon positive aussi, tu sais. Même si c'est souvent très farfelu d'un point de vue, si t'es un scientifique puis t'écoutes les Star Trek, quand t'es adulte, t'es comme genre, OK, cet épisode-là, il est comme tout ça. Il y en a des très bons en même temps qui posent des questions philosophiques, qui rendent, tu sais, ils jouent avec les concepts. Puis, tu sais, comme genre, on pourra en parler longtemps de la science dans Star Trek, mais il y a comme toujours des, tu sais, ça va un peu dans tous les sens. Il y a des bons moments de culture scientifique, de science-fiction populaire qui passe à travers Star Trek. Puis c'est positif. Ça donne une idée d'un monde humain qui est comme qui a évolué vers quelque chose de plus grand, de plus noble, versus cette espèce de négativisme.
C'était le concept dès le départ de Gene Roddenberry.
Exactement. Hein, c'est ça, hein? Puis plutôt que, puis je pense que dans toute la série, puis on pourra dire peut-être que Discovery est à part, mais pas nécessairement. C'est encore à voir, tu sais.
Je pense que les valeurs y sont, mais...
C'est ça, dans toute la série, il y a cette recherche-là.
De ces valeurs-là.
Exactement, tu sais. Ouais. Donc, moi, c'est ça. À cause de ça, c'est une série que j'aime, parce que autant j'aime le cyberpunk, puis Alien, puis Blade Runner, puis les trucs négatifs et tout, je trouve que c'est rafraîchissant qu'il y a ça aussi, parce que j'aime la science, je crois au futur. Et donc, cette idée de futur positif, que la technologie, que la science, c'est pas quelque chose qui va nous amener dans une déchéance, mais qui fait partie de l'évolution normale de l'être humain pour conquérir l'univers, l'espace, whatever. Donc ça, c'est Star Trek. Et donc, du coup, même si j'ai pas une connaissance comme un Trekkie qui aurait écouté 25 fois tous les épisodes qui existent, puis qui connaît tout par cœur, puis qui va à toutes les conventions, puis qui lit des livres, puis qui apprend à parler Klingon, je veux dire, j'ai quand même écouté la série originale, vraiment beaucoup quand j'étais petite, mais beaucoup, beaucoup, beaucoup. Puis là, j'ai recommencé à l'écouter récemment. Donc, j'ai écouté les deux, la première saison, puis je suis rendue à la moitié de la deuxième saison en réécoute, puis c'est drôle tout ce que j'avais oublié.
Combien de saisons, total?
Trois.
Okay.
Puis la troisième, il paraît que c'est so-so. Mais j'avoue que les épisodes que je me rappelais, je les ai déjà comme pas mal vus dans la première saison. Donc, c'est eux qui m'ont marqué. Puis ensuite, j'ai appris qu'il y avait la série animée que je savais pas, qui est venue tout de suite après la première saison, avec les mêmes acteurs qui faisaient des voix. Mais imagine ces acteurs-là, l'insulte!
Donc c'est la série animée
avec le même cast! Avec Kirk Spock!
Wow. Je savais pas ça.
Oui, William Shatner, Nimoy.
C'est une vieille série animée. Là.
Oui,
je pensais
que
c'était un truc plus récent.
Non. Ça date de l'époque des avant le film, avant le premier film.
Wow.
Ça date de l'époque. Là. C'était comme tout de suite après. Puis je trouvais ça tellement drôle. J'étais comme, mais je pense qu'à l'époque, les autres, ils n'avaient pas conscience de qu'est-ce que Star Trek allait devenir en fait. La Star Trek a fait comme ses trois saisons. La troisième saison, je pense que c'était plus.
C'était un peu sur la pente descendante.
Ah, très descendante. Mais ce qui s'est passé, c'est que c'était plus le même showrunner, le même personne en charge. Il y a quelque chose qui s'est passé au niveau de la réalisation de la série. Je ne sais pas si c'est un autre studio qui a produit ou une autre chaîne télé qui l'a pris, mais il y a vraiment eu un clash. On n'est pas là pour parler, donc on fera les recherches quand on parlera de cette série-là.
Cette série-là, oui.
Donc c'est ça. Puis après ça, quand il y a eu les Next Generation, à l'époque, je ne regardais pas quand ça passait, mais j'en ai écouté beaucoup. Je ne les ai pas toutes vues, les Next Generation, en passant, mais j'ai vraiment écouté toutes les meilleures. Là. Je me suis tapée sur IMDb, puis j'ai vraiment tout ce qui était en haut de 7.5, je les écoutais. Puis des fois, j'écoutais les autres entre les deux, mais j'ai vraiment écouté la crème.
Ça, ce serait pour que je fasse un peu comme j'avais fait pour Doctor Who, finalement. Faire une espèce de sélection des meilleurs épisodes.
Mais Next Generation, j'ai vraiment beaucoup, beaucoup aimé. Ce que j'ai vu de Next Generation, j'ai adoré, là. Puis je pense que tout le monde, c'est pas pour rien que Picard, c'est le numéro un là, des capitaines, là. Je pense que Next Generation fait partie de la TV qui a changé la télé. Dans les années... Ça, c'était fin 80, début 80... Fin 80.
Ah ouais?
Fin 80, Next Generation, okay. Si je ne me trompe pas. C'est venu avant Twin Peaks, parce que pour moi, la TV, il y a un avant puis un après Twin
Peaks.
Ouais. C'est coupé au couteau, là. Mais je pense que ça a quand même fait partie de ces bonnes séries télé-là qui ont comme permis à la TV d'évoluer vers quelque chose un petit peu plus... comment dire? Ben oui, tu sais, comme qu'on se permettait... On se permettait de l'art, vraiment, tu sais.
Ah ouais.
Genre, il y avait quelque chose...
Ouais, du contenu plus riche,
ouais, etc. Il y avait Whoopi Goldberg, qui était une femme de cinéma, qui joue dans Next Generation.
Ah, c'est vrai, ouais, c'est vrai.
Donc, juste ça, c'est quand même... ça se faisait pas, là. Je pense que c'est comme une des premières, là, qui a comme accepté de jouer à la télé, tu sais, parce que ça se faisait pas de passer d'un à l'autre à une certaine époque. Ouais, il y en a probablement d'autres qui l'ont fait avant, là. Je dis pas que... Rock Hudson a joué dans Dallas, là, ou dans Dynasty. Mais bon, est-ce que Rock Hudson, c'est une grande star du cinéma? C'est une autre question. Mais bon, bref.
Wow, j'hallucine qu'on parle de Dallas ou Dynasty dans notre truc. Enfin, anyway.
Bon, on en a déjà parlé, non?
Non, on a eu d'autres trucs.
Ouais. Mais c'est vrai que je parle beaucoup, là. Faut que je résume.
Non,
parce
non,
que là, je suis
rendu
à Next Generation. Puis, c'est parce qu'on parle un peu, anyway, des
ouais,
trucs.
Ouais. Non, mais c'est pour restituer un petit peu aussi. Ouais, c'est ça, le comment dire, ouais, c'est ça, les valeurs Star Trek, le thème, le concept de la série, tu sais, et puis là où là où ça va dans Discovery, en fait.
Qui provoque tellement de, pas de controverse, mais qui dérange les femmes. Je sais pas si Next Generation a dérangé les femmes, mais j'ai l'impression que non.
Non,
je pense qu'à la base, ça
super,
fait. Non, mais je parle
aimé.
À l'époque quand c'est sorti. Enfin, sur le coup.
Ce que j'en entends, en tout
cas. Sur le coup, non, mais je pense pas. C'était vraiment magnifique, là.
Ouais.
Ensuite, on a eu Voyager puis Deep Space Nine qui sont sortis à peu près en même temps. Moi, j'ai suivi Deep Space Nine et j'ai écouté Voyager la première saison à l'époque, mais je l'ai pas réécouté puis j'ai oublié des détails, mais je me rappelle l'avoir écouté un petit peu. Donc, je suis un peu au courant.
C'était la première fois qu'il y avait une femme capitaine, c'est ça?
Ouais.
Hein?
Mais c'était, ça se passait aussi beaucoup avec les Borg, donc on suivait le, tu sais, c'était dans le, parce qu'il y a comme quatre cadrans, tu sais, dans la galaxie, tu sais. Puis donc,
chaque cadran a son.
Ben, je veux dire, dans la génération premier, ils sont dans un cadran. Après ça, avec Next Generation, ils exploraient un autre secteur de la galaxie.
Tu vois, tout ça, c'est des...
Avec Voyager, ils ont été comme propulsés dans un autre secteur.
Très mal. Quoi.
Avec Deep Space Nine, c'était comme la station qui est comme peut-être dans un coin de la galaxie, mais il y avait comme un trou noir qui les amène. Ben, pas un trou noir, mais comme un tunnel, hein, comme une espèce de passage qui les amène dans un autre des cadrans qui peut explorer puis peut gagner. Non, mais c'est ça, c'est intéressant parce que c'est vraiment, c'est une série qui se passe au niveau de la galaxie. Donc, ça, c'est ça qui est de le fun. Contrairement à Star Wars, que ça.
Bon, ben là, ça a aucun. Star Wars, ça.
Mais Star Wars,
c'est
ça se passe.
Basé sur
est-ce que ça se passe juste dans une galaxie? Ouais, ils se promènent pas d'une galaxie.
Ah non, je sais pas, ça dit juste dans une galaxie lointaine, très lointaine. C'est
ça,
tout ce que ça dit. Donc, ça se passe dans une galaxie.
Dans une galaxie qui est pas
qui est
la nôtre.
Pas la nôtre.
Mais par contre, ça
mais
fait
où
que ça
parle anglais, puis des fois britannique, des fois.
Ça, je vois que ça se passe définitivement dans notre galaxie. Et donc, oui, c'est ça. Next Generation, je ne sais pas où est-ce que l'Enterprise et Next Generation, je ne sais pas où est-ce que c'est l'Enterprise dans Next Generation. Non, l'original, c'est l'Enterprise.
Ouais.
Et là, tu vois, c'est ça l'affaire. Quand tu as un spécialiste avec toi, il sait ces détails-là, tu sais. Mais il y en a tellement à se rappeler des trucs. Parce que là, je sais que... On va googler ça. les différents vaisseaux de Star Trek. Parce que t'as Enterprise en plus, la série. Parce que là, on n'est pas rendu. On a Discovery.
Donc dans Star Trek Enterprise, c'est pas l'Enterprise.
Oui, mais c'est ça l'affaire. C'est que oui, c'est l'Enterprise parce qu'il y en a plusieurs Enterprise.
OK, c'est ça, il y en a plusieurs.
Mais il me semble.
USS Enterprise.
C'est ça, c'est l'USS Enterprise
Donc, OK, il y a le NCC 1701, le USS Enterprise de Kirk. Il y a le NCC 1701D, qui est l'Enterprise de Picard.
Ouais, exact.
Dans Next Generation. Et je pense que that's it. Attends, dans...
Non, mais dans Enterprise, ça doit être...
Ah non, avec Archer, oui, avec Archer, il y a l'Enterprise, le NX, NX-01.
Ben voilà.
Qui est un autre modèle de l'Enterprise... Ah ouais, puis après, oui, il y a les déclinaisons dans les films aussi, parce qu'il y a le USS Enterprise, le NCC 1701A, qui apparaît pour la première fois à la fin de Star Trek 4, The Voyage Home. C'est super compliqué. Wow. Ah, puis OK, donc le USS Enterprise, le NCC 1701B, qui apparaît dans Star Trek Generations, en 94.
Il y a le Defiant, qui n'est pas un Enterprise, lui, qui est dans le...
Il y a le USS Enterprise 1701C, c'est très compliqué là. Ouais, il nous faudrait vraiment champion là.
Il faudrait une charte.
Il y a un NCC 1701E qui est dans First Contact et dans Star Trek Insurrection et dans Star Trek Nemesis. Ok.
Puis t'as toutes les autres comme là on a le Discovery.
Officiellement, j'y connais rien.
Bon, mais je savais que c'était l'Enterprise.
Ah, mais c'est pas fini. Il y en a encore d'autres.
Ah non, mais il y a d'autres.
Ah ouais. Il y a encore le J, le F, tout ça. Mais alors, attends...
J'imagine en plus que dans l'ancienne, dans le Star Trek, t'avais pas le même Enterprise quand c'est l'autre... tu sais, quand c'est Spock qui est avec l'autre capitaine avant que ça soit Kirk. T'es au courant de ça?
Oui, Pike, avec Pike.
Avec Pike. Ça doit être un autre Enterprise, ça.
Oui, en plus, oui, ça doit être encore un autre. Ouais. Bon, là, mais là, j'aurais pas rentré là-dedans parce que là, au moins, je sais que c'est avec Pike. Il y a beaucoup d'Enterprise. Et il n'y a pas que l'Enterprise.
Et puis là, on n'a même pas commencé à parler de Discovery. On est encore en train de parler des anciens.
Ouais.
Discovery
là-dedans, ça...
C'est entre Enterprise puis l'ancienne génération.
Et la série originale.
Et la série originale.
Ouais, c'est ça. Et puis, au niveau thématique, quoi, au niveau de toutes ces valeurs que, tu sais, dont tu parles, de la série Star Trek, etc. Parce que, donc, comme on le disait avant, Les fans sont très partagés. Il y a beaucoup de fans qui détestent Discovery parce que c'est une série qui est plus guerrière, qui ressemble plus au reboot qu'on a eu au cinéma dernièrement, que c'est plus dark que ci, que ça. Alors, est-ce que c'est justifié ou pas? Parce que franchement, moi, n'étant pas un Trekkie, puis n'ayant pas vu tout ça, en ayant surtout vu des films, mais pas tellement des séries, même si j'aime beaucoup les films avec l'équipage original, surtout les deux premiers, j'ai bien aimé, on va dire, deux sur les trois films, sur les trois reboots. Là. Il y en a deux que j'aime bien, le deuxième, je l'aime pas trop. Moi, j'ai beaucoup aimé Discovery.
Moi, je te dirais que le bruit, comme quoi c'était comme supposément mauvais, me donnait l'impression que j'allais pas aimer ça. Et puis, je suis partie avec un préjugé négatif, donc j'ai aimé. Parce que... Puis là, est-ce qu'il faut le regarder en se disant « c'est pas du Star Trek » Écoute, je sais pas. Sur le coup, que les Klingons aient changé de look, ça m'a énervée. Mais après ça, j'ai comme compris le... Ben, ils sont vraiment hot, là. Tu sais, je veux dire,
moi, franchement, je l'ai trouvé intéressant.
Ouais, je veux dire, c'est les autres Klingons qui étaient le problème. Là. Ceux qui ont fait avant, tu sais, eux, ces Klingons-là, ils sont vraiment...
Tu sais qu'on va recevoir des courriels d'insultes.
Non, je pense... Écoute, il faut vraiment être malhonnête, là. Tu sais, je veux dire, au début, t'es comme, ah, c'est pas les Klingons. Je sais pas, fin, ils ont changé un petit peu pour qu'ils soient un peu plus proches des Klingons. Je sais pas s'il y a eu une métamorphose, mais je pense pas. Pas parce que les personnages reviennent, tu sais, parce que ils ont quand même des traits un peu Klingons, là, ils sont pas complètement à l'ouest, tu sais, quand tu portes attention.
Ah ouais, sauf qu'ils ont comme redesigné le look des Klingons, tu sais.
Oui, je sais, mais le look des Klingons qu'il y avait était.
Les Klingons ont jamais changé depuis.
Ah oui, c'est ça qui est drôle, c'est que les Klingons, ils ont toujours changé.
Ok, ils sont jamais pareils, finalement. Ils sont jamais pareils. D'une série à l'autre, ils sont jamais
pareils. Mais non, c'est ça qui est drôle, parce que dans l'ancienne génération, les Klingons, ils ont juste l'air de.
D'un gars avec une prothèse sur la tronche.
Même pas. Il n'y a pas de prothèse. Ils ont l'air humains. Non. Ils n'ont pas de prothèse. Ils ont comme des... ils sont juste comme...
C'est comme maquillés.
Ben, ils ressemblent un peu à des gens qui habiteraient, je sais pas moi, dans tu sais l'endroit où il y a des Néandertals là, qui sont plus... il y a plus de gens qui ont des gènes Néandertals. Là, pas des pays arabes, mais... Peut-être dans... Je veux pas dire des niaiseries, là, parce que je vais me faire tomber dessus, là, par Mais ils ressemblent... C'est ça, ils ont beaucoup de sourcils, mais c'est des humains, là. Tu sais, ils ont pas l'air...
OK, d'accord, donc ils sont pas vraiment différents. Ils sont pas différents de nous.
C'est des Klingons, tu sais. Mais écoute, c'est parce que l'ancienne génération, au niveau du budget, là, ouais, ils sont pas...
C'était limité.
Oui, mais en même temps, ils ont fait les... avec les petites antennes... bleu, que ouais. Je devrais me rappeler c'est quoi, parce qu'ils étaient dans Enterprise. C'est pas les Ferengi, non, c'est les...
C'est-tu les Andoriens?
Les Andoriens, exactement, les Andoriens. Tu vois, t'es meilleur que moi, même si t'es pas...
Non, mais c'est parce qu'il y en a un dans Discovery, puis ça m'est resté, là, voilà.
Il y a un Andorien dans Discovery, on le voit.
Un gars bleu avec des antennes, ouais.
Oh, ben, il est pas là...
On le voit dans peut-être deux épisodes.
Ouais, c'est ça, il est pas là souvent. Mais donc, c'est ça, c'est les Andoriens qui sont dans la première série, puis sinon, ils s'amusent avec des extraterrestres, mais oui, non, les Klingons, pour une raison quelconque, parce que le premier, ils ont les grosses têtes, là, dans celui-là avec la cage, avec justement le Capitaine Pike, là, qui est comme le... c'est un épisode qu'ils ont fait en deux épisodes, donc eux autres,
Ouais, moi je me rappelle des Klingons des films, quoi, finalement. Ouais, ils avaient des prothèses, tu sais, avec le front comme ça. Et puis,
Next Generation.
Ils avaient des cheveux, mais très en arrière comme ça.
Ouais, mais Next Generation aussi, c'est comme ça, les Klingons.
Ouais, là, ils ont comme gardé ce design-là pour quelques années, là.
Parce que Worf est très. Ouais, très c'est typé. Ça. Mais, puis c'est la même chose dans Deep Space Nine, ils ont gardé ce look-là. Donc, c'est probablement venu dans les films, ce look-là, qu'ils ont gardé
dans les séries après.
Next Generation. Ça s'est rendu jusqu'à Deep Space Nine. Puis là, après ça, ils ont décidé de changer dans Enterprise. Ils sont comment on les voit pas dans Enterprise.
Ils sont pas dans Enterprise. OK.
Non, c'est pas les Klingons, c'est les Romulins qui ont comme un premier contact dans Enterprise. OK. Qui savent pas c'est qui.
Enfin, en tout cas, parce que les Klingons, c'est un peu c'est l'ennemi récurrent, quoi.
Ouais, on le voit souvent. C'est ça, c'est pour ça qu'ils doivent
être. Moi, je me rappelle des films, et puis ils étaient pas aussi agressifs qu'ils sont dans celui-là, dans Discovery, là, mais c'était toujours un peu les méchants, quoi.
Ce redesign-là, sur le coup, j'étais comme horrifiée, comme tout le monde. Le premier épisode, j'étais « Mais c'est quoi ça? Quelle idée? Pourquoi? » Et tout, tu sais, je me dis « Il aurait pu juste les modifier un petit peu. » Parce que les Klingons, on vient les aimer beaucoup, là, tu sais, dans Next Gen, puis Deep Space Nine surtout. Dans Deep Space Nine, il y a beaucoup, ils sont très présents, puis ils sont très, on rentre beaucoup dans leur culture, puis ils sont très amis des humains, en fait, là-dedans. Ils ont des amitiés profondes avec des humains, puis d'autres extraterrestres. Donc, c'est un petit peu choquant de les voir changer quand on s'est habitué à leur physique puis à leur look et tout. Mais à un moment donné, je me suis dit, ils sont quand même vraiment badass dans Discovery, là. Tu sais, je veux dire, il y a un petit côté, justement, ils ont été inspirés de...
Moi, ça m'a fait bizarre aussi au début. Ouais. Ça m'a fait un peu bizarre. Giger.
Giger.
Ouais, au début, ça m'a fait bizarre aussi. J'étais là, ouais, des Klingons, new look, des Klingons, bizarre. Puis en fait, tu t'y fais, quoi. Tu t'habitues, j'aime bien. Je trouve gonflé aussi le fait que t'as carrément des scènes entières où ça parle Klingon, sous-titré, quoi.
Ben, t'as beaucoup ça dans Star Trek. Quand les Klingons sont ensemble, ils parlent Klingon. Ils ont tous développé la langue, là, c'est vrai.
Ouais, je sais, mais je pensais pas qu'il y en avait autant dans les autres.
Mais non.
Celle-là, c'est spécial. Tu passes beaucoup de temps avec eux. Quoi. Bon, c'est aussi pour expliquer justement ce que tu disais tantôt, là, toute l'espèce de guerre de dynastie, enfin, des guerres de pouvoir à l'interne et tout.
Oui, mais en même temps, c'est tout ce qui définit cette série-là, c'est d'aller voir du côté des Klingons. Donc, tu sais, pour les gens qui ont critiqué ça, je pense qu'on est dans une autre exploration du canon de Star Trek.
C'est pas tellement le temps qu'on passe avec eux, c'est vraiment le redesign des Klingons qui a été critiqué.
Je sais, mais je parle dans l'ensemble beaucoup des gens qui ont dit que c'était pas la bonne vibe, que c'était pas... Tu sais, parce que les Klingons, c'est un paradoxe. C'est un gros paradoxe dans Star Trek parce que c'est l'ennemi des
humains, enfin de Starfleet,
à l'époque de Kirk. Donc, à l'époque aussi, qui est l'époque de Discovery, 10 ans avant, mais on n'est pas loin. Et puis, ils deviennent alliés dans Next Generation, puis ils sont alliés dans Deep Space Nine. Dans Next Generation, il y a des tensions encore un petit peu, mais dans Deep Space Nine, on sent que ces tensions-là sont encore plus faibles parce qu'ils ont rejoint la Fédération.
OK.
Les Klingons. Ils font partie, là. Je veux dire, Worf porte un habit. Ben, non, c'est pas vrai, ils n'ont pas rejoint la Fédération. Worf est un peu à part. Comme étant un peu un renégat des Klingons qui devient membre de la Fédération, mais ils sont quand même assez alliés. Et les Klingons, c'est guerrier, là. Il n'y a pas de... Ils sont pas dans cette espèce d'idée-là de la paix sur Terre. Ils sont très différents, mais en même temps, ils deviennent très respectés. Puis c'est vraiment intéressant d'aller passer du temps chez eux, puis de voir comment ils sont, puis de garder aussi ce côté-là très guerrier, puis de pas tomber dans des trucs fleurs bleues, puis...
Mais ils ont quand même un fort sens de l'honneur, etc.
Ah oui, mais c'est les Klingons, là. Ils sont très, très différents de cette espèce d'idée-là de l'humain, que la compassion, puis que qui veut être en paix, puis tout. Tu sais, puis tout commence sur ce.
C'est un peu médiéval, finalement, comme.
Je ferai attention à dire médiéval parce que je pense que à la longue, à force d'écouter Star Trek, le Klingon représente un peu l'autre peuple, culture.
Ouais, c'est plus sophistiqué, ouais.
Que tu veux pas te détruire parce que toute l'idée de Star Trek, c'est qu'ils vont découvrir, ils vont faire des premiers contacts, mais ils ne doivent jamais contaminer les autres cultures, ils doivent les laisser évoluer dans ce qu'elles ont à leur niveau, etc. Ça revient le
Prime Directive.
Puis donc, je pense que la relation avec les Klingons, c'est ça, c'est comme ils sont presque némésis, mais bon, tu sais, les Romulans aussi, c'est des némésis mais peut-être plus des némésis de Vulcain à la limite, tu sais, mais parce qu'ils ont peut-être un côté un peu moins extrême, tu sais, ils sont pas dans l'honneur comme les Klingons, ils sont pas dans l'agressivité comme les Klingons. Pour les Klingons, là, tu sais, l'idée de mourir au combat, tu sais. Il y a quelque chose de très, justement, je pense que j'avais lu quelque part que c'était inspiré de l'Asie, puis je dirais presque peut-être du Japon, avec cette idée-là des kamikazes, tu sais, avec les Klingons, tu sais. Ils ont un côté genre où est-ce que... mourir pour... tu sais, il n'y a rien de pire que d'être fait prisonnier. T'es mieux de mourir. Donc, tu te bats jusqu'au bout, tu sais. Ouais. T'abandonnes jamais. Donc, ils sont très... ouais.
Ah ouais, c'est une culture qui est très inspirée.
Très différente, très inspirante, mais pas du tout humaine, tu sais. Donc, puis ils naviguent très bien dans tout l'univers de Star Trek. On navigue bien là-dedans. Donc, moi, j'ai trouvé ça intéressant qu'ils nous amènent chez les Klingons.
Ouais, moi aussi,
toute la ligne... de cette toute cette partie-là, l'attention, le personnage qui est comme une sorte de fusion d'un Klingon puis d'un humain, ça, j'ai trouvé ça vraiment brillant aussi. J'ai trouvé ça intéressant.
J'étais moins sûr au niveau du cast, c'est pas vrai, parce que je le trouvais intéressant, l'acteur, mais
Ben, on peut en parler, en fait, on peut rentrer là-dedans, finalement. Mais,
le cast.
Ben, allons-y, en fait, parlons du cast, là. Il faut qu'on avance un peu, là.
Donc, toi, tu l'as aimé, le casque, je pense bien. Hein.
Moi, déjà, bon, j'ai beaucoup aimé cette série. J'ai été séduit dès le départ parce qu'on a des personnages féminins. On a des personnages féminins.
Qui lead, le lead.
Qui lead. C'est des personnages forts, c'est des personnages super intéressants. Déjà, début, paf, on a Michelle Yeoh et puis, comment ça s'appelle, Sonika Martin Green, qui sont les deux leads. J'étais là, waouh, ça commence fort. Et puis, j'aime beaucoup la chimie qu'elles ont entre elles. J'aime ce qu'ils en ont fait, ces personnages. Enfin, qui est quoi, comment, tu sais, Michelle Yeoh, qui est une capitaine, super respectée, etc., etc. Puis l'autre qui a fait ses classes avec elle. Elles sont amies, elles sont pas juste, tu sais, des collègues de boulot, des collègues d'équipage, mais elles sont des amies.
Son personnage étant Philippa Georgiou,
ouais.
Puis Michael Burnham.
Et Michael Burnham, et j'adore le fait qu'elle a un prénom de gars.
Ouais.
C'est super intéressant. Je crois que je lisais dans les trivia que c'est inspiré de deux personnages. C'est en honneur à deux personnages
féminins qui s'appellent Michael.
Qui s'appellent Michael aussi, ouais.
Quelqu'un dans les Bengals.
C'est ça. Il y avait une comment on appelle ça, une columniste, une journaliste, je pense. On peut dire, ouais, c'est une journaliste, je pense, qui s'appelait Michael Sneed. Et puis Michael Steele des Bengals, ouais, la chanteuse des Bengals. C'est juste.
Et quel personnage et quelle actrice. Sérieux.
Ouais, donc super actrice que je connaissais de Walking Dead et que j'aimais beaucoup dans Walking Dead, qui est très différente là-dedans, et c'est ça que j'aime bien. En fait, il y a beaucoup de gens l'ont trouvé inexpressive, froide, alors que moi je trouve que c'est pas du tout le cas. Et puis en plus, c'est son personnage. Ouais, c'est ça, c'est son personnage.
C'est son personnage, mais
toute son éducation vulcaine.
Moi, je trouve qu'elle le fait beaucoup mieux que l'autre personnage qu'on avait eu de Vulcaine dans Enterprise. Elle était bien, mais elle était trop... je sais pas, il y avait quelque chose de caricaturé. Tandis que Michael Burnham, elle est pas vulcaine, elle est humaine aussi. Hein,
ouais, mais elle est toute en nuance, c'est ça que j'aime bien. C'est qu'elle a cette espèce de rigidité un peu vulcaine. Mais tu sens ces émotions qui traversent tout à travers son regard, là.
C'est ça, parce qu'elle a été élevée, elle a vécu chez les vulcaines. Vulcaines, donc elle a un comportement vulcain.
Donc oui, elle a cette espèce de rigueur et de discipline, c'est à la vulcaine. Puis de non-émotion, là, finalement. Mmh. C'est comme tout est la logique et rien n'est émotionnel.
Tu ne montres pas tes émotions. Ouais, tu les caches.
Et elle, tu sens, tu vois les choses qui percent à travers son regard. Là. Moi, je trouve ça super. Enfin, je la trouve excellente, quoi, dans ce rôle. Vraiment excellente.
Oui.
Elle m'a complètement charmée dès le début.
Puis t'embarques dans son personnage. Ouais. Tu la suis. Moi, sérieusement, je la trouve très crédible, très, très bonne.
Ah, complètement. Moi, je trouve qu'elle tient la série...
Ouais.
Totalement, quoi. Elle est complètement. C'est vraiment un super bon cast.
Tu y crois?
Excellent choix. Puis j'espère que ça va continuer. Enfin, que le rôle va être. Enfin, je pense, elle le maîtrise tellement là, le rôle, que quoi qu'il arrive avec les histoires qui s'en viennent, j'espère que ça va continuer. Mais enfin, donc elle vraiment me tire là dans. T'as envie de savoir ce qui va se passer. T'as envie de voir son chemin, son évolution finalement, parce que elle a vraiment un arc intéressant, tu sais, d'un bout à l'autre de la saison.
Il commence avec donc Philippa Georgiou, qui est jouée par
Michelle Yeoh.
Puis là, on est comme, ah, OK, c'est elle la capitaine. Puis là, on pense pas que Michael, c'est nécessairement le personnage principal. On se dit,
ouais,
voilà.
Ça va être les deux, tu sais. Ça va être l'équipage en entier.
Cette actrice-là,
t'sais.
Elle est tellement bonne. Puis là, ça va aller où et tout. Puis ils nous l'assassinent. Ils nous font le coup de Game of Thrones, tu sais.
Ouais.
Alors là, ils nous font une petite twist Game of Thrones. Puis là, ce côté-là, j'étais comme, depuis Game of Thrones, on se permet des choses à la télévision qu'on se permettait pas avant. Mais, et donc, ils nous l'enlèvent et tout. Puis là, on réalise, on est comme, ah, OK, ça va être qui le capitaine?
C'est pas à propos d'elle.
Puis là, arrive le capitaine...
Lorca. Qui est joué par Jason Isaacs.
Et qui dont le nom est inspiré de Garcia Lorca, l'auteur.
Et qui est un excellent acteur aussi. Et je trouve qu'il, lui aussi, là, il tient son rôle. Là. Moi, je me rappelle de lui... Enfin, je l'ai vu dans plein de choses. Là. Mais je pense que ce qui me vient à l'esprit, là, c'est dans la série Harry Potter, il joue le papa il fait partie du côté sombre, là, tu sais, des méchants, tu sais, de la gang de méchants dans Harry Potter. C'est un super acteur anglais.
Ça le change pas nécessairement finalement dans Star Trek parce que.
ouais. Non, mais il a cette espèce de
J'aime beaucoup son personnage parce qu'il joue, ouais, il a une ambiguïté, il joue là-dessus. C'est le gars super dur, tu sais, qui fait pas de quartier.
Atypique.
Ouais, atypique et tout.
Qui suit pas les règles.
Puis là aussi, on se fait tout savoir.
On se fait tout savoir.
On se fait tout savoir parce que voilà, tout à coup, on découvre que c'est lui le méchant. Et enfin.
Mais. Attends, on en reviendra, mais je sais ça, jusqu'avant, ça, c'est la fin un peu, c'est l'avant-dernier épisode ou le
trois épisodes de la fin.
Trois épisodes de la fin, quoi.
Là où, selon moi, ils auraient dû s'arrêter, mais c'est selon moi.
Ah, ouais, ah, tu veux dire qu'il aurait dû avoir une fin.
Ouais, c'est une des rares critiques que j'ai avec cette série, c'est que je trouve que.
Ça a été un peu long dans le Mirror Universe, mais des fois, ils font ça. Hein. Ils aiment tellement le Mirror Universe. Ça, c'est un truc de fan, par exemple.
Ouais, ça, tu vois, par exemple, j'étais pas au courant, moi, du Mirror Universe. Donc là, c'était une belle surprise.
Quand tu vas arriver le Mirror Universe, là, puis quand t'as écouté tous les trucs, t'es comme « Yeah! »
C'est drôle super parce, cool.
que, parce que, tu sais, comme le premier épisode du Mirror Universe est juste excellent l'ancienne série avec Captain Kirk, puis qui est vraiment comme l'anti-Captain Kirk, tu sais. Mais tout le temps que dans Deep Space Nine, ils vont beaucoup dans le Mirror Universe. Je sais pas si Next Generation, ils se sont tapés, sûrement. Je me
Donc
rappelle
là, en
pas.
Fait, en fait,
mais je sais que c'est un truc qui revient beaucoup, le Mirror Universe, dans okay.
mais est-ce
Deep
que,
Space Nine.
Alors, est-ce que ce qu'on découvre dans Discovery, c'est censé être la première fois qu'ils découvrent le Mirror Universe? Puis à partir de là, c'est un truc où, qui est récurrent? Si on prenait la timeline Star Trek...
Ouais, ça pourrait être parce qu'il attends, il l'a tué dans Enterprise, le Mirror Universe.
Enterprise, ça se passe tu avant?
Ouais, ça se passe avant Enterprise.
Ah, ok, ça se passe avant.
Il y a sûrement le Mirror Universe à Enterprise. J'essaie de penser.
Ok, c'est pas grave. Mais
mon Dieu, on dirait que je l'ai pas écouté cette série-là. Je me rappelle pas.
En tout cas,
c'est parce que le problème, c'est que j'ai écouté Deep Space Nine puis Enterprise back to back. Puis là, des fois, je mélange les deux. Je sais que dans Deep Space Nine, il y a le Mirror Universe parce que je vois les personnages dans leurs trucs et tout. Mais dans Enterprise, je ne sais pas s'il y a le Mirror Universe. Donc oui, dans Star Trek Enterprise, il l'a dans un épisode In a Mirror Darkly. Donc ça ne serait pas la première fois qu'on le verrait dans Discovery.
OK,
donc,
parce que dans Discovery, ils en parlent comme si c'était un truc nouveau finalement.
C'est parce qu'à chaque fois, on dirait que c'est comme... dans Enterprise, il y a bien des choses qui se passent dans Enterprise qui ne vont pas se rendre nécessairement dans la...
OK.
Les gens, ils savent pas qu'ils ont visité. Le Mirror Universe, c'est quand même, comment dire... je sais que Deep Space Nine, ils ont conscience du Mirror Universe parce que à cause de ce que Captain Kirk a fait dans le Mirror Universe, ça a comme un impact qui se rend jusqu'à Deep Space Nine.
OK.
OK? Par contre, dans Enterprise, ils en parlent peut-être qu'ils vont en parler, là, ou je sais pas.
OK, ils font une incursion dans le Mirror Universe, mais c'est pas... ça s'arrête là. Ou en tout cas, ils n'ont pas encore la connaissance.
Ou peut-être qu'ils n'ont pas d'impact. Et effectivement, je ne me rappelle pas c'était quoi les...
Parce que là, en tout cas, dans Discovery, tu as vraiment l'impression que c'est la première fois qu'ils y vont, quoi. C'est genre, ah, on a découvert un nouvel univers.
En tout cas, le Mirror Universe est très, très populaire dans le canon parce que là, je vois qu'il est dans Next Generation. Faudrait se taper. En fait, on pourrait... Sais-tu ce qui serait le fun? On pourrait se faire une espèce de 24 quarks où ce qu'on écoute juste les...
les épisodes dans le Mirror Universe, ouais. Toutes les séries.
on écoute, c'est ça, puis on passe à travers les séries, à travers le Mirror Universe.
Ça serait drôle, hein?
Oui, oui, oui. Je pense qu'on pourrait avoir vraiment du fun, là, c'est un affaire. Parce que, en tout cas, le Mirror Universe, c'est vraiment comme un jeu, en fait, parce qu'il n'est pas possible. C'est comme un jeu de télé, parce que... Tu peux pas avoir un univers où est-ce que t'as les mêmes personnages qui sont complètement différents, mais les mêmes personnages, c'est comme le même physique, mais il y a comme quelque chose d'absurde. C'est du jeu de narration et tout. Mais c'est excellent, c'est formidable. Parce ouais. que t'as un plaisir fou à voir comment sont les... Puis je trouve...
Les anti...
Écoute, dans Discovery, c'est intense, là, le Mirror Universe. Là, comme il mange... Mais là, tu voulais parler du personnage de Saru, on peut y aller, là. Mais il mange ces gens-là, c'est horrible. Ils vont au bout, là, ils se censurent pas, là. Ça me plaît, là.
T'sais. Ouais, ouais, mais vraiment. Mais
ouais, oui,
Saru, je voulais parler de Saru, de Doug Jones, qui est super dans ce rôle-là. Et puis qui.
Magnifique, j'adore Saru, là. C'est comme.
Ouais, et puis. Mais ce gars-là, c'est fou, quoi. Il joue tout le temps. Lui, il a un physique tellement particulier qu'il est tout le temps cantonné au rôle de monstre et de créature étrange et tout ça. C'est lui qui est dans Shape of Water, je crois.
Ah oui,
qui
oui,
joue
c'est
la créature.
C'est vrai.
Tu sais.
J'ai pas vu Shape of Water.
Et puis, c'est lui qui était dans Hellboy aussi, qui jouait une autre créature un peu genre dans l'eau, là, une espèce de créature poisson.
Puis là, il fait...
Il fait tout le temps des trucs comme... Parce qu'il a ce physique tellement tout long, là, un peu bizarre. Je pense, je me demande s'il est retouché numériquement, parce que...
Non, il est comme ça, naturellement.
Parce que, non, mais je, non, parce que je veux dire, je l'ai vu au naturel, je sais que c'est un mec très long, très...
Ah, tu veux dire au niveau de sa tête.
Un physique très bizarre.
Mais non, ils doivent justement...
Mais je pense qu'ils doivent faire quelques petites retouches, mais en tout cas, il y a un maquillage super, super intéressant.
Ah, puis là, c'est un bel extraterrestre, là. Ouais. Tu sais, puis comme quand ses petites antennes montent, là, tu sais, qui expriment... Ouais,
ces petits ganglions, là, qui s'agitent quand il ressent
Il y a des bons moments, il y a un bon épisode, l'épisode où est-ce qu'il est tout en communication avec la forêt, puis qu'il est comme stone,
ah,
puis qu'il
ouais,
veut pas, il lâche pas le morceau, là, il veut vraiment, tu sais,
mais vraiment, ils ont une belle, en fait, finalement, on en a, je veux dire, malgré tout, on a quand même une belle brochette de, on finit quand même avec un équipage, parce qu'on a, leur cas, ça va changer,
mais à date,
on avait, mis à part Michelle Yeoh qui disparaît au bout du deuxième épisode, bon, elle revient à la fin, mais, dans le Mirror Universe, mais on avait Lorca, Burnham. Bon, on suit Burnham, c'est vraiment elle, quoi.
Oui, c'est Burnham.
Mais c'est Burnham.
Puis là,
Lorca était quand même un personnage super important pendant pas mal toute la série, toute la saison. Il y a Tilly.
Tilly.
Il y a Saru.
Paul Stamets.
Il est docteur, ouais.
Je veux dire, c'est le docteur. Non, Stamets, il est pas docteur, lui, c'est l'ingénieur.
C'est le scientifique, c'est un peu l'officier scientifique. Genre.
Le scientifique, c'est Saru. Donc, l'équivalent de Spock, c'est Saru.
Ouais.
Je pense qu'il serait plus comme l'ingénieur, le chef ingénieur.
Ah, comme Scotty.
Comme Scotty.
Ouais, sauf que Scotty, il était vraiment aux machines, tu sais.
Ah,
ouais,
t'as raison,
mais t'as complètement raison. Sauf là, ils ont le Sport Drive, c'est pas pareil, quoi, tu sais.
Mais il est aux machines pareil, tu sais.
Ouais.
Mais je te dirais que Paul Stamets, donc joué par Anthony Rapp. Toute cette dynamique-là des sports et tout est un petit peu anachronique, il me semble, par rapport au canon de Star Trek.
Donc ça, c'est un truc...
Dans le sens...
C'est un truc qui existe, enfin, que t'as déjà
Non, parce que justement, il est nulle part, tu sais, puis c'est la manière ultime de voyager à travers l'univers.
Ouais, mais quand
puis on
ne
le revoit plus après. On ne le revoit plus dans Star Trek.
Ouais, mais quand t'arrives à la fin de la saison, ils en parlent comme quoi... T'sais, on est arrivé à un point où, pour l'instant, on n'a pas trouvé le moyen de remplacer l'interface humaine, parce que Stamets lui-même était dans la chambre, machin, pour...
Oui, mais tu t'attendrais que...
Pour contrôler le truc.
Que Next Generation...
Oui, ils aient trouvé le moyen de... Ils reviennent à ça.
Oui, qu'ils aient... Ou qu'il y ait d'autres extraterrestres qui se servent de ça. Ou s'il y a quelque chose de trop magique...
trop avancé, finalement. Trop fou, là, comme...
Ouais, exactement, tu sais.
Ouais, ça, c'est un peu exagéré, c'est vrai. Mais en même temps, c'est excitant, là. Je veux dire, ça crée des situations super excitantes, là.
Mais oui. Non, je te dis pas que c'est... Tu sais, ils ont eu un fun à inventer ça, mais c'est parce que là, je pense que... Là, ça serait mon petit côté... Tu sais, à la limite, si tu fais Star Trek, reste dans les... Là où est-ce que tu t'es cantonné, tu sais, accepte que tu t'es cantonné là, puis va pas comme créer des technologies où, tu sais, à la limite, tu peux croiser un extraterrestre qui a une technologie, parce que, tu sais, à un moment donné, dans Enterprise, il y a un moment très fun où est-ce que leur bateau est tout pété, puis ils arrivent quelque part, puis là, ils se font complètement réparer, puis c'est magnifique, là, c'est genre, c'est une technologie, tu sais, ils font ça, puis là, ils sont comme, wow, comme une technologie toute avancée, ils sont comme dans une espèce de... Mais bon, il y a un petit twist à ça, puis c'était pas une bonne idée d'aller faire réparer leur vaisseau-là, mais reste que... Donc oui, tu pourrais avoir des petits moments où est-ce que... Ou quand ils croisent le Q-Continuum, ça, c'est...
Voilà, tu vas
Next Generation. Next Generation, Q-Continuum, c'est vraiment... Ils sont vraiment très drôles, moi, je les aime bien.
Là, tu parles dans des trucs que
dans la première série que t'es supposé avoir vue, hein, tu devrais t'en rappeler, non? Tu as vu ça il y a très longtemps.
Next Generation?
Non, l'autre d'avant.
Ah, dans l'original.
Dans l'original, il y a vraiment...
C'est tellement loin.
Il y a un épisode il est super bon, cet épisode-là. C'est quand ils sont avec un enfant extraterrestre, mais qui a l'air d'un adulte, puis finalement, il se rend compte que c'est un enfant, puis qu'il est tellement... Il peut tout faire, il peut tout transformer, puis comme ça, dans une espèce de vieux château. Puis c'est vraiment excellent, c'est un bon... Mais là, c'est supposé... Il y a beaucoup de gens qui supposent que c'était des Q-Continuum, ceux-là. On les a pas vus dans Discovery, il faudrait les voir, les
peut-être dans la saison 2, là, tu sais.
Peut-être.
Je veux dire, ça laisse plein de portes ouvertes quand même. Il y a beaucoup de choses. Ça laisse plein de portes ouvertes pour une saison.
Mais donc, oui, des petits moments où est-ce que tu vas aller voir des extraterrestres qui sont encore plus avancés que toi. Tu l'as aussi dans Deep Space Nine quand il parle avec les entités qui ne vivent pas dans la même relation de temps que nous. Mais là, quand c'est l'équipage comme comme tel, quand c'est les humains qui maîtrisent une technologie, qui vont comme, je sais pas, je le sentais moyen, celle-là. Okay. Ça me sentait un trop gros saut de...
Ouais, je me disais aussi, waouh,
c'était...
une technologie pareille, c'est marrant, il me semble qu'on la voit plus après ça.
Ouais, c'est ça. Ça, c'était un petit
truc,
pas nécessaire, non.
L'excuse
plus.
À la fin, genre, ouais, on n'a pas trouvé comment faire, alors pour l'instant, on va rester au warp. C'est comme, ok...
C'est un peu ce que j'aimais pas du dernier épisode de Battlestar Galactica, mais on spoilera pas.
Ouais.
Genre, on prend pas.
Mais ouais, c'est ça. Enfin, en tout cas, très beau cast. Je trouve qu'ils sont tous... Peut-être la seule critique, c'est que Tilly est un petit peu caricaturale.
Ouais.
J'aime bien l'actrice, c'est super et tout, mais je trouve un petit peu caricaturale.
C'est un peu le comic relief. Je pense qu'il essayait de l'avoir un peu comme pouvait être Scotty, justement, des fois, ouais. l'ancien. Mais il était pas si... Il est peut-être too much. Effectivement, peut-être un peu trop.
Ouais, c'est une cadette, c'est différent, là. Tu sais, c'est comme... je la trouve un peu caricaturale. C'est juste ça, en fait. C'est juste elle, finalement, qui est un peu caricaturale. Je la trouve sympa, elle tu sais... Non, puis son personnage tient la route, je veux dire, il est
elle en fait un
petit
peu trop.
Il est vraiment intéressant, mais c'est... Ils ont juste poussé un petit peu trop loin le côté, genre, ah, je parle trop, ah, je suis un peu maladroite, ah, si, ah, ça, tu sais. Bon, à part ça, elle est très bonne dans ce qu'elle fait, tu sais, ça, c'est bien. C'est juste, ouais, le petit côté comic relief, un poil trop. Mais je pense qu'il en fallait aussi, dans une série
qui a un angle
un peu plus dark. T'as vu que c'est la première fois qu'une série Star Trek est affichée mature.
C'est vrai?
Ouais.
À cause
de la violence, à cause de quoi?
Ben non, parce qu'il y a un personnage homosexuel.
Non, ça c'est pas possible que ce soit juste à cause de ça, là.
Ouais, ça serait...
Bon, c'est CBS, hein, faut dire que...
Ça serait intense que ça soit pour ça.
C'est du network national.
Ben, okay.
Je sais pas c'était quoi le rating au Canada,
violent.
Mais en tout cas...
Mais attends, laisse-moi penser. Est-ce que c'est plus violent que les... Parce que oui,
il me semble qu'il y a des trucs pas mal gore. Tu sais, les scènes de torture et des trucs comme ça, il y a des trucs un peu intenses. Tu sais, les flashbacks de torture que... Je parle avec un accent anglais. Les flashbacks de torture.
Ouais.
Tu sais, les flashbacks de...
Ouais, mais c'est...
Tu sais, les flashbacks de torture que Ash Tyler...
Mais qu'est-ce que ça veut dire, mature? Mature, c'est comme 18 ans et plus ou 14 ans?
Mature, c'est...
Parce qu'on s'entend que c'est du 14 ans et plus, c'est pas du 18 ans.
Je sais pas à quoi ça correspond. Ça, c'est le rating américain. Je sais pas quel est le rating canadien, là, par exemple. À mon avis, c'est 14 ans, rating canadien.
C'est sûr que, selon moi, là, dans ces scènes-là, il y a rien de...
J'ai pas checké, mais à mon avis, c'est pas plus haut que ça.
Parce que les scènes de torture, ça va, c'est pas si...
Ça serait pour la violence, ça serait pour... Parce que oui, il y a de la violence... Il y a du monde qui se fait assassiner brutalement, mais...
Il y a deux hommes qui se donnent des becs, c'est intense pour les Américains.
Bon, en tout cas, pour CBS, ça se peut que ça soit ça. Je trouve ça hallucinant, mais bon.
Ouais, ça serait hallucinant que ça soit ça, là, quand même. Je pense. Oui, parce que, justement, ça fait longtemps qu'ils en parlent d'avoir des personnages homosexuels dans les Star Trek, hein. C'est comme un thème récurrent, parce que dans Next Generation, ils voulaient en mettre.
Mais il n'y en a pas eu.
Ça n'a pas passé.
Parce que le network a refusé.
Je ne voudrais pas accuser le network. Ça se peut qu'à la dernière minute...
Mais on sait que les networks américains...
Roddenberry voulait qu'il y ait quelque chose comme ça. Il était pour, parce qu'il voulait justement être très progressif. Mais je pense qu'il a reculé à un moment donné. Il a comme peur. Parce que, tu sais, c'était pas juste le network. Il y avait beaucoup de gens qui... Tu sais, on parle quand même... Il y a une Next Generation, comme on dit, c'est la fin des années 80, début 90. Ouais. Puis tu as vu qu'aux États-Unis, ça a pris beaucoup de temps avant qu'il y ait une vraie acceptation. Là, ça l'a changé. Là, on a de plus en plus... C'est de plus en plus présent, des personnages gays dans les séries mainstream, là. Mais à l'époque, il y avait eu tout un épisode où est-ce que c'était des personnages neutres...
Ouais.
Qui rencontrait des extraterrestres neutres. Puis, donc, un des neutres tombait amoureux de... l'espèce d'acteur, là, qui était le bras droit du capitaine. Là. il fait des trucs ésotériques maintenant, là, des espèces inexpliquées. Il y a une barbe. Ah, j'oublie toujours son nom à lui. Ben, j'oublie tous les noms, comment dire. Mais donc, c'est
Riker? Non, pas Riker.
Ah oui,
Riker. Ah non, Riker. C'est dans Next Gen, c'est Riker.
Oui,
hein?
C'est Riker. C'est ça. Okay. Riker dans Next Gen. Tombé amoureuse de Riker. Puis il avait pris une femme pour faire cette espèce de personnage-là neutre. Mais lui, okay. il avait dit que ce qui aurait été vraiment intéressant, c'est qu'il prenne un homme pour jouer le personnage neutre.
Ouais.
pour justement choquer un petit peu le.
Mais c'était trop tôt. Puis ouais, c'est ça, c'est les networks nationaux, là.
C'est ça.
Ça passe. Enfin, puis, c'est délicat, quoi.
Ouais, c'est ça. Puis donc,
c'est ridicule, mais bon.
Il n'y en avait pas eu dans Next. Dans... Donc, c'est la première fois qu'il y a un personnage, ben, tu sais, deux personnages clairement homosexuels qui s'affichent, là. Il y avait eu dans Next Generation une histoire d'amour entre deux personnages féminins, mais c'était des personnages, c'était drôle parce que c'était comme des personnages qui étaient, qui avaient été hommes et femmes dans une autre incarnation.
Ah, okay.
Parce que c'est des extraterrestres. Puis là, ils se retrouvaient comme étant deux femmes, donc. C'était, mais tu sais, il y avait une scène de, où est-ce qu'il s'embrasse, il y avait de l'intimité ou okay, ouais. des sentiments. Je ne me rappelle pas, je pense qu'il y avait un baiser, mais, où, mais il y avait vraiment une déclaration d'amour, tu sais. Mais bref, mais là, que ce soit vraiment deux humains gays, ça prend la forme.
Je voulais parler aussi de Ash Tyler, tu sais, qui est joué par Shahzad Latif,
ouais.
qui est donc le soldat qui est retrouvé par Lorca dans une prison Klingon, qui est ramené ouais. sur le Discovery. En fait, moi, ce qui m'a énervé, c'est au niveau scénaristique. C'est pas tant l'acteur. L'acteur, il est bien.
Mm-hmm.
Et puis, j'aime bien, effectivement, ouais, le conflit. Ça, c'est super intéressant, le côté, tu sais, le conflit... Enfin, le fait qu'il a été modifié, tu sais. Mm-hmm. Ça, c'est super intéressant.
C'est horrible,
mais c'est trippant en même temps. Enfin, c'est genre, oh, tu sais, ça va loin, là. Puis, tu sais, ils ont modifié sa conscience. Enfin, tu sais, ils ont modifié physiquement et modifié sa conscience. Enfin, c'est assez fou, quoi. Mais non, mais ce qui m'a énervé, c'est le côté un peu facile. Genre, tu sais, ouais, c'est un soldat que tu retrouves. On sait pas combien de temps il a passé là-bas. Mmh. Il a clairement,
ouais,
un PTSD. Puis genre, tout de suite, ça devient le bras droit du gars. Ça devient son chef de sécurité. Si ça, alors que le gars, il est clairement PTSD, quoi.
Puis justement, les chances qu'il soit une espèce d'agent double sont quand même...
Ouais, il se pose même pas la question, quoi, tu sais.
Mm.
Le gars, il a été torturé pendant on sait pas combien de temps, enfin, on sait plus ou moins combien de temps, mais c'est trop facile, tu vois. Mm. J'aime pas ce côté, genre, ah, ok, ouais. c'est le beau gosse de la série, on va le mettre.
Ouais, il y avait, moi aussi, ça m'a un petit peu agacé, ça. Ouais, tu sais, ça, il y a des petites faiblesses scénaristiques.
Ouais, c'est ça, ouais. Ben, évidemment, c'est pas parfait, mais alors, tout ce côté, Sleeper Agent, tout ça, je trouve super intéressant.
Mais en même temps, tu sais qu'ils sont dans l'urgence, ils sont dans une guerre. Donc, ouais. c'est juste Lorca qui prend cette décision-là, puis ils sont pas dans l'état normal ouais. des choses. Ouais, donc, ouais, ouais. il faut pas
genre
l'oublier,
le gars,
ça.
L'exercice de tir, il est super bon, tu sais, genre, etc. Donc, il se dit, OK, je vais prendre le gars, tu sais, le gars qui est super bon avec
puis
moi.
Puis, oublie pas que Lorca aussi, il a son agenda à lui, parce que c'est pas le vrai
ouais,
Lorca
c'est ça,
aussi.
C'est ça.
Donc,
rétrospectivement,
exactement...
quand tu sais, ouais, rétrospectivement, quand tu sais là où il s'en va.
Ouais. C'est ça.
Quelque part, c'est pas surprenant. Enfin, je veux dire, lui, ça lui importe peu. Il veut juste quelqu'un qui soit capable de, tu sais, de tuer un max d'ennemis. Et puis, Mais c'est ça. Puis, je sais pas, l'histoire d'amour est un petit peu rapide, un petit peu facile. Enfin, il y a un truc un peu... c'est le seul truc qui m'a dérangé, en fait.
Mais je dirais que dans les Star Trek, les histoires d'amour, c'est jamais du...
C'est pas leur fort.
Ben, c'est très... bon, enfin, ça va, là. Ça serait quoi les meilleures histoires d'amour? Moi, j'ai toujours aimé l'histoire d'amour entre Worf puis... encore oublié un nom.
C'est pas grave. Les fans sauront de quoi tu veux parler.
Dans Deep Space Nine.
Attends, Worf est dans Deep Space Nine et dans Next Gen?
Uh-huh.
Ah, ok, d'accord. Ah, il y a des personnages récurrents comme ça. Ah oui, donc Sarek, tu connais ça. Donc Sarek est dans d'autres séries aussi.
Oui.
Ok, d'accord.
Ben, Sarek, il est dans le... il est clairement dans les anciens Star Trek.
Ouais.
On le voit aussi dans Enterprise, sûrement.
Maintenant que j'y pense, peut-être qu'on le voit dans les films aussi. J'ai pas là comme ça, ça me vient
Sarek,
pas, mais...
Il y a sûrement... Ah oui, c'est Jadzia Dax et Worf. Jadzia Dax.
Jadzia Dax, c'est
oui,
qui?
Oui, Dax, ça c'est vraiment intéressant dans Deep Space Nine. Ça, c'est une sorte d'extraterrestre. C'est comme une sorte de parasite qui va être dans des hosts. Puis le parasite, tu le passes d'un host à l'autre. Puis l'host, c'est comme des extraterrestres qui ressemblent à des humains, là, mais c'est pas des humains, des humanoïdes, si tu veux. Puis donc, ils vont comme intégrer la conscience de tous les anciens hosts.
OK, puis Worf, il a une histoire d'amour avec ça?
Ouais. Avec ça, ben avec ça, regarde ça.
Mais avec, jolie, avec, avec une forme incarnée ou avec...
Elle est jolie, ça.
OK, ouais, elle est jolie. Mais là, c'est, ça, c'est l'état quand elle est... Quand elle est... Quand elle a pris possession d'un... Quand elle a un host?
Oui, c'est ça. Quand elle a un host, elle a... le host, c'est
okay.
juste...
OK. Donc ça, c'est son host, en fait.
C'est ça. Cette femme-là, c'est son host. Oui, okay. Oui. Jadzia, c'est le host. Dax, c'est le parasite, si tu veux.
D'accord.
Puis donc, t'as plusieurs types de... Donc, elle, c'est Jadzia.
OK.
Dax, mais tu vas avoir d'autres Dax, tu sais.
D'accord.
Puis les autres Dax, c'est comme le nom de, du host. Mais alors... Dax. Dax, c'est
mais
le,
alors,
le...
Worf est amoureux de, du Jadzia. Host?
Ben, des deux,
ou
en
du
fait.
Du parasite. OK, du des host, deux. Quand elle est... Quand
ouais,
elle, quand
puis,
elle est...
Puis il y a toute une histoire pour... Spoiler, spoiler, pour Deep Space Nine. Quand Jadzia meurt.
OK, bon, on va pas rentrer là.
Le Dax,
façon,
c'est,
vu,
le Dax est donné à un autre host. Puis là, est-ce que... C'est quoi les émotions que okay. Worf a pour ce nouveau...
D'accord.
Ce nouveau host-là de Dax, tu sais. Mais je te mets triste quand même.
Wow! Ouais. Eh ben, c'est intense. OK, donc...
Ouais,
donc
du Space Night, c'est très, très bon, je te le conseille. Oh. Ouais, ouais.
Ouais, puis... j'avais commencé un petit peu il y a longtemps, mais voilà. Donc, ouais, c'est ça. On a-tu fait le tour un peu? Ou tu avais quelque chose à dire encore à propos de...
Du cast?
Ouais, ou d'autre chose, chose. Enfin, je veux dire, je trouve que de manière générale...
Ah non, non, moi, je voulais dire aussi une autre affaire, c'est qu'une des particularités, je trouve, de ça, c'est qu'il y a un arc tout le long de la série.
Oui.
Parce que dans les Star Trek, souvent, tu as des arcs par épisode. Dans Deep Space Nine, tu avais peut-être un arc un petit peu plus...
Un grand arc.
Ben, tu avais un grand arc, mais il y avait quand même plein de petits épisodes. Je te dirais que dans Discovery, c'est moins comme ça. Hein? Je veux dire, tu as l'épisode où est-ce que justement, avec Saru qui vont sur la planète, puis que là, on est beaucoup centré sur ces petites bêtes-là. Il y a quelques épisodes qui sont moins...
Ouais, mais tout est relié à la grande histoire. C'est pas
à
comme...
l'histoire de guerre, c'est ça.
À chaque fois, il y a une raison, tu sais, pour passer à la prochaine étape, pour essayer de mettre fin à la guerre, machin. Donc, tout fait partie de cette espèce de grand arc
beaucoup
de la saison, là.
Plus présent, c'est ça, exactement, dans Discovery que dans n'importe quel autre Star Trek. Dans Deep Space Nine, il y a tout cet arc-là où est-ce que c'est évidemment, il y a le conflit entre les Cardassiens puis les, Bajorians, les gens de la planète Bajor.
Okay.
Puis ça, c'est cette guerre-là qui a eu lieu, où est-ce que là, on est juste au début de cette espèce d'accord de paix, mais que tu sens toute la tension, le ressentiment, un feeling d'après-guerre qui ressemble beaucoup à l'après-guerre, si tu veux, de la Deuxième Guerre mondiale, avec les nazis et tout. Et donc ça, c'est un arc qui revient beaucoup puis qui est très présent, mais on reste quand même beaucoup plus dans des épisodes individuels où est-ce que... T'sais, chaque épisode est... Bon, c'est sûr que Deep Space Nine, c'est quoi? 7 saisons, là. Donc, c'est sûr que sur 7 saisons, je vois peut-être plus les épisodes individuels. Mais tu sais, là, je trouve qu'on est vraiment uniquement centré sur cette espèce de... Il y a comme une course à la guerre contre les Klingons.
Ouais.
Il y a tous les enjeux du côté des Klingons. On voit vraiment l'histoire. Tu aurais de la misère à écouter un épisode... sans avoir vu celui d'avant, pour le plaisir de voir l'épisode.
Et
tandis
que
dans tous les autres Star Trek, à peu près tous les épisodes s'écoutent
ils
un peu indépendants.
Ils sont comme self-contained, ouais, tu peux les voir tout seul, puis t'as genre la petite planète à explorer de la semaine.
Ouais, ou le petit enjeu, ou la petite chicane. Genre même dans le rapport de Deep Space Nine, où est-ce qu'il faut que tu comprennes qu'il y a eu ce conflit-là, chaque épisode se contient un petit peu plus, tu sais. Pas tous,
là,
mais
plus. Là, il y en a un ou deux. Ben, j'allais parler justement de mon... Je voulais faire allusion à mon épisode préféré, qui est l'épisode numéro 7, si je ne me trompe pas, qui s'appelle « Magic to make the sanest man go mad ». C'est cet épisode où ils seront pris dans un time loop. Et pour moi, ça, c'est très Star Trek, tu sais.
C'est très,
très
Star
genre,
Trek.
Le genre de délire
très,
à la Star
très,
Trek.
Très Star Trek.
Et j'ai adoré ça.
C'est Stamets, lui, qui est le seul qui...
Ouais, qui est le seul qui sait quelque chose, enfin, puis qui essaye de rétablir le truc. Enfin, bon, j'ai trouvé ça super intéressant. Je trouve qu'il y a...
Avec le personnage de...
De Mudd. Alors, c'est sûr que Mudd, ouais, joué
Mudd,
par Rainn Wilson.
Ça, c'était le fun de le revoir, parce que lui, il est dans le Star Trek.
Ah, Mudd, c'est un personnage récurrent aussi?
Oui, c'est un personnage de la première...
C'est original. Ah, OK, donc il revient...
Dans la série originale.
Ah, mais ils le font pas mourir à la fin de celui-là? Non, je sais plus.
Non, peut-être pas.
Non, ils disent pas.
Il l'envoie en prison.
Oui, t'as raison, ouais. Ah, ok. Là, tu vois, je découvre des trucs, c'est bien. Enfin, en tout cas, j'ai adoré cet épisode-là, quoi. J'ai trouvé super cool.
Mais ouais, tu vois, ça, c'est un bel exemple.
J'étais vraiment, il y avait comme, tu sais, là, ça prenait, enfin, j'aimais bien, là, ce qu'on avait vu. Je trouve que les deux premiers épisodes étaient très forts. C'était puis c'était tout l'arc, tu sais, Burnham et Philippa Georgiou. Mm-hmm. Après, à la fin du deuxième, Philippa Georgiou meurt.
Ouais, choc.
Et c'est comme, fuck, où est-ce qu'on s'en va? Après, ça part. Le troisième, on part quelques temps plus tard où elle a passé du temps en prison. Enfin, Burnham a passé du temps en prison pour trahison, machin, le procès, tata, tata.
Elle s'en va en prison, en fait.
Ouais, elle s'en va en prison. Et puis après, arrive ce qui arrive. Il y a Lorca qui la récupère, il l'attrape au vol et puis qui la garde avec lui. Puis, et après, ça part. Mais cet épisode-là, particulièrement, là, c'était du beau mindfuck à la Star Trek. Là, j'ai bien aimé ça. T'sais. C'était vraiment le fun.
Oui, d'accord. Ça, c'est le genre de truc qui fait plaisir à voir. Ouais.
Ouais. Puis je trouve que globalement, c'est une série qui a une belle facture. Il y a des beaux effets spéciaux.
Les effets spéciaux maintenant, je trouve. Ouais.
Les effets spéciaux de nos jours, on ne s'étonne plus de rien. T'sais, tout est chouette. Quoi. On arrive à une qualité.
Non, mais ils n'en mettent pas trop, en fait. C'est ça qui est bien. Ouais. Je veux dire, ils mettent pas. Des fois, ils jouent vraiment. Ils restent quand même dans le rapport des personnages. Tu me disais que c'était plus comme les films. Oui. Et non, tu sais, parce qu'on est quand même dans de la télé, là, où est-ce qu'il faut développer les personnages, leur psychologie, tout le rapport avec Sarek, par exemple.
Oui, non, mais je veux dire, au niveau du look général de la série,
ça
file plus comme les derniers, quoi, comme le reboot. C'est plus dans l'esprit du reboot, je trouve, tu sais.
Oui, non, parce que dans le reboot, c'est des films d'action.
Ouais.
Il n'y a pas beaucoup de développement des personnages.
Non,
pas beaucoup.
C'est vrai.
On passe beaucoup, beaucoup de temps dans du gros genre. Pou, 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 pou. C'est vrai que dans Discovery, il y a plus d'action que dans
peut-être n'importe. Dans les autres séries, ouais.
Probablement plus que dans les autres séries. C'est probablement celle-là qui a le plus d'action.
En tout cas, moi, ça ne m'a pas déplu du tout, quoi. Je trouvais ça vraiment.
Non, mais les scènes d'action sont très bonnes.
Ouais.
Quand tu regardes les premières générations, c'est tellement drôle comment on est rendu. Parce que moi, quand j'écoutais ça quand j'étais petite, là.
Ouais, mais c'était pas les mêmes budgets, c'était pas la même époque.
On est d'accord. Hein. Mais c'est parce que tu te dis à l'époque, mais les gens, ils voyaient rien. Parce que là, moi, je les écoute, OK? Puis là, tout de suite, je regarde ça, puis je suis comme, mais attends, le cascadeur, il ressemble même pas au personnage principal, on le voit tout de suite, tu sais. Mais tout de suite, là, tu le vois, tu sais. Puis quand j'étais petite, je me rendais même pas compte, là, tu sais. C'était comme genre le Captain Kirk qui se battait et tout. Puis là, tu vois le cascadeur, puis t'es mort de rire. Aucun effort, là, c'est pas lui, là. Mais aujourd'hui, quoi, soit que les acteurs font leur propre cascade ou s'ils retouchent vraiment.
Ouais, c'est retouché numériquement.
C'est retouché numériquement, puis tu le vois pas du tout, là. Tu sais, tu peux pas.
Ouais. Non, c'est clair qu'on est passé à un autre niveau, là. Mais ouais. En tout cas, je trouve très soigné au niveau des décors et des costumes et des effets spéciaux. Ouais. Je trouve que tout est une très belle facture, quoi. C'est beau. C'est soigné, quoi. C'est très soigné comme production.
Ouais.
Puis, ouais, le seul reproche que j'ai, alors. Enfin, pas le seul reproche que j'ai, parce que c'est pas une série parfaite, là. Il y a des défauts, mais je trouve que. Elle aurait pu s'arrêter à l'épisode 13. Tu sais, on arrive à l'épisode 13, ils sont revenus du Mirror Universe. Sauf qu'ils ne sont pas revenus. Donc, spoiler, on l'a déjà dit, mais ils reviennent dans le bon univers. Mm-hmm. Mais ils shootent un petit peu trop loin, puis ils reviennent comme 9 mois plus tard.
Oui.
Puis ça a l'air que les Klingons ont gagné la guerre.
Oui.
Ou en tout cas, ils sont sur le point d'exterminer la Terre, quoi, mm-hmm. la planète Terre.
S'en vont, là.
Puis, moi, j'aurais vu une fin là, quoi.
Ah, pour reprendre.
Bon, déjà, je trouve qu'il y a beaucoup de cliffhangers. Tu sais, à la fin de chaque épisode, quasiment, t'as un cliffhanger. Oh, il se passe un truc de fou. Puis, alors oui, c'est bien de te tenir en haleine pour la semaine d'après, tu sais, la semaine suivante. Je sais pas si sur Netflix, je pense que sur Netflix, ils sont sortis tout en bloc, là. Tu pouvais les binger, je suppose. Mais, tu sais, quand tu les voyais de semaine en semaine, moi, je les ai vus de semaine en semaine. Puis, alors oui, t'as des cliffhangers, c'est cool. C'est comme toutes ces séries où t'as des cliffhangers à la fin de chaque truc. Mais je trouve que ça, c'est tellement énorme, là. Tu sais, les Klingons ont gagné la guerre. Enfin, tu sais, tu changes complètement la donnée du truc, là. J'aurais voulu que ça arrive là. Mais on dirait
Mais quoi, t'aurais voulu qu'on voit la résolution dans une prochaine saison ou qu'il est résolu plus rapidement? Parce que moi, j'aime bien la fin où est-ce qu'il y a un appel de détresse du.
Ouais, mais j'ai l'impression que c'est trop un setup pour relier ça avec la série originale. Enfin, pas la série originale, parce que là, on est avec Pike, on n'est pas avec Kirk.
C'est Kirk, c'est pas Kirk?
Non, c'est Pike.
Ah.
C'est Pike. À la toute fin, ils disent on a un appel de Captain Pike. Et puis c'est là où elle dit, puis tu vois un écran, puis ça commence à s'afficher NCC1, puis après ils coupent à autre chose. Et après, c'est la dernière phrase qu'elle dit, it's the USS Enterprise. Et puis là, bang, générique. Et puis en plus,
Là, ils font le gros gag de nous mettre le vieux générique de je ne sais plus comment s'appelle l'auteur de la musique. Mm-hmm. Mais c'est le violon.
Le premier.
Ça finit sur ce générique-là. Moi, j'aurais presque gardé ça pour... Oui, c'est une bonne fin, c'est cool. T'es là, genre, oh, The Young Enterprise. Ils font le lien et tout. Mais moi j'aurais presque voulu que ça s'arrête au 13, là, où t'arrives à la fin, ils reviennent là. Déjà, t'as deux surprises. Elle a ramené Georgiou avec elle, tu sais. Mm-hmm. Et d'une, il y a ça. Et puis de deux, c'est les Klingons qui ont gagné la guerre. Ils sont trop tard, c'est les Klingons qui ont gagné la guerre.
Ça aurait été une bonne fin, quoi.
Ouais. Je trouve que c'était bon, là. Tu finis là-dessus. Tu sais, pas saison 2, tu verras ce qui se passe après saison 2, tu sais. Et je trouve que j'ai l'impression qu'ils précipitent beaucoup de trucs à la fin. Ils essaient de trop en mettre, quasiment.
Ouais, parce que là, on est rendu...
Parce que finalement, après, c'est genre... Ouais, on va aller sur le homeworld des Klingons, puis on va aller mettre une bombe et un truc, puis ça va être fini comme ça, tu sais.
C'est un petit peu ordinaire aussi, comment... C'est vrai qu'on a pu avoir deux saisons de guerre avec les Klingons.
Ouais!
Parce qu'ils prennent beaucoup de temps pour les bâtir, puis les rendre intéressants.
Puis là, tout à coup, c'est fini, tu sais. Genre, ils reviennent, les Klingons ont gagné la guerre, et paf, en un épisode, ils résolvent le truc, ou un ou deux, allez, OK, deux. Ils ont trouvé la solution, paf, c'est fini, tu sais. En gros,
bah, les tiens en
otage. Leur faire peur, ouais, on va leur faire peur, puis ils vont tout arrêter. Boum, puis c'est fini.
Ouais.
C'est comme... Attends. C'est pas un peu rushé, ça, non? c'est le gros problème que j'ai avec ça. Mm. Je trouve cette fin un peu trop rushée.
Ouais, mais je serais d'accord avec toi, parce que je pense que ça aurait pu être vraiment intéressant de faire durer ce conflit-là, effectivement, sur deux saisons. Parce que c'est gros, là, cette guerre-là entre les Klingons puis la...
Ouais, puis je trouve que là, quand ils reviennent, puis les autres ont gagné la guerre, là, tu repars sur un autre truc complètement différent. C'est comme comment ils vont évoluer dans ce nouvel état de...
C'est vrai, c'est comme la deuxième... Parce que ce qui définissait beaucoup Deep Space Nine, c'était... Il y avait cette espèce de trou noir-là qui permettait de traverser. Donc, il y avait cette espèce de tension-là juste à côté du trou noir, entre les Bajoran puis les Cardassiens.
Ouais.
Puis arrive cette nouvelle menace qui est les métamorphes, donc les changelings en anglais, mais les métamorphes, si on le dit en français,
ouais,
qui viennent menacer toute Starfleet, autant les Klingons que...
Enfin, tout l'ordre de...
Tout l'ordre de toutes les planètes et tout. Et puis donc, cette histoire-là, en fait, s'installe. Donc, on commence avec ce petit conflit entre les Bajoran puis les Cardassiens, qui est comme genre tout le monde est tendu, etc. Deep Space Nine, c'est comme vraiment à l'autre bout de la galaxie. Et puis, en plus, dans cette espèce de trou noir-là, on s'en va dans une zone complètement inconnue. Où est-ce que arrivent tous ces extraterrestres-là, toutes ces choses menaçantes-là? Puis ça dure sur cette saison, tu sais? Puis cette ligne-là, cette tension-là est jamais, tu sais, les Bajoran puis les Cardassiens, tout le long, restent sur les dents, tu sais?
C'est comme un espèce d'univers de guerre froide qui est...
Oui. Tout à fait. Ah. Mais ça commence, en fait, avec la guerre froide.
Okay.
Puis toutes les sept années qu'on suit ces gens-là, les sept saisons, en fait, qu'on suit ces gens-là, ils sont en guerre froide. Donc, je pense que tu as tout à fait raison qu'ils se sont vraiment tirés dans le pied. Puis après ça, qu'est-ce qu'ils vont faire un épisode cute avec Pike, puis tout, tandis qu'ils auraient pu continuer à explorer.
Qu'est-ce qui va se passer? On va avoir Spock, tu sais,
Ils ont tous fait un beau redesign en plus des Klingons qu'au début, on est choqués, mais là qu'on aime. Ils ont des personnages de Klingons qui étaient vraiment intéressants, fascinants, qu'on aurait pu voir plus, qui auraient pu comme développer des liens avec l'équipage, comme cette Klingon-là qui est prisonnaire. Ce personnage-là qui est comme à moitié Klingon, on y croit moyennement là, qu'elle l'a comme réformée, là, tu sais, il est peut-être encore là quelque part.
Ouais, pendant un moment, tu crois vraiment qu'elle veut... passer à l'ennemi, enfin, tu sais, qu'elle veut changer de camp.
Mm-hmm.
Puis en fait, tu t'aperçois que... tu sais, non. Ouais, non, je trouve qu'ils ont manqué un truc, là. Ils ont comme voulu rusher plein de trucs. Je sais pas s'ils voulaient encore utiliser Michelle Yeoh parce qu'elle sera pas là pendant la deuxième saison. Alors, ils voulaient juste la caser, tu sais, finir avec elle. Tu sais, l'arc de son personnage d'impératrice. Ben, parce qu'il la laisse partir, elle est libre à la fin de la saison. Là,
ouais, t'sais. OK, mais...
Elle fait son truc. Puis après, c'est tiens, t'as gagné ta liberté. Merci, ciao.
Ben, écoute, à la limite, il y a dessus, puis genre, elle n'est pas là à la saison 2 si l'actrice ne veut pas jouer avec eux. Là, on est
je sais pas c'est quoi une histoire de contrat, je sais pas c'est quoi, là, mais...
Ben, c'est pas une raison pour toi de définir ton épisode.
Non, mais je sais, je suis complètement d'accord, mais bon, il y en a eu déjà des compromis comme ça dans des séries télé ou dans des films, histoires de contrat, de machin, qui ont fait que ça a donné un truc complètement niais, un truc complètement...
Oui, mais pas si importante que ça, je veux dire, à la limite, elle peut mourir, on est d'accord, là. Si c'est l'actrice le problème, là, ce personnage-là pourrait juste arriver à sa fin.
Ouais.
Mais Michael, ça serait plus problématique, ça voudrait pas revenir.
Ouais. Non, elle, clairement non, mais...
Archer, on sent qu'il peut revenir, il existe dans cet univers-là.
Ben là, tu vois, ils sont partis sur Pike, donc on va voir.
Oui.
On n'a pas eu Pike dans aucune série, en fait.
Ben, dans l'original.
Ok, ouais.
Dans l'original, il est là un petit peu.
Ouais, puis on l'a vu dans le film... Dans le dernier film, je pense qu'il est... Je ne sais plus si on le voit dans...
Dans le premier.
Dans le premier reboot, ouais. Ouais, donc c'est ça. C'est le truc qui m'a un peu dérangé. Là. Moi, c'est arrivé à l'épisode 13, je voyais très bien une fin, un beau cliffhanger. Là, genre, les Klingons ont gagné la guerre. Oui, on se revoit l'année prochaine.
Ça leur aurait donné le temps aussi de... Ben, c'est sûr qu'on sait tous qu'ils n'ont pas gagné la guerre non plus. Là, donc, mais ça
ouais,
leur
mais
donné
au moins,
temps.
Après, le truc, c'est comment ils vont s'en sortir. Qu'est-ce qui va se passer? Puis là, paf, en deux épisodes, c'est résolu. Après toute la saison, là, où ils cherchent à mettre fin au truc, c'est ça. Oui, il y a des... Donc, ils bouclent les arcs de personnages comme celui typiquement de Ash Tyler de manière intéressante, tu sais. C'est ça. J'étais un peu déçu par cette fin-là, hein, cette fin rushée, quoi. C'est ce truc qui m'a gêné. Mais sinon, globalement, bonne saison, quoi. Enfin, en tout cas, pour moi, c'était une belle surprise. Des beaux personnages que je me réjouis de revoir.
Ouais, puis je suis vraiment 100% d'accord avec tout ce que tu viens de te dire. Hein. J'avoue que je l'ai senti moi aussi à la fin. J'ai eu une insatisfaction sur les deux, trois derniers épisodes.
Ouais.
Mais en même temps, j'ai été quand même charmée par cette série-là. J'ai quand même
oui. Non, mais ça enlève pas les qualités. C'est ce que je dis. Ça enlève pas les qualités de la saison.
Là, c'est à voir si... En fait, moi, ce que je pense, c'est qu'une des raisons pourquoi ils ont peut-être fait ce choix-là, c'est qu'ils se sont peut-être pliés aux critiques, tu sais. Voyant comment les gens réagissaient aux premiers épisodes, ils se sont peut-être dit qu'il fallait qu'ils aillent ailleurs puis qu'ils retournent. Puis c'est toujours le fameux « on va retourner à l'esprit de l'original ». Mais effectivement, je ne sais pas qu'est-ce qu'ils peuvent faire.
Ouais.
Qui serait comme 10 ans avant Enterprise, aussi qu'ils vont aller, qu'est-ce qu'ils vont développer, qu'est-ce que ça va être.
Pourtant, je trouve que tout le long de la série, elles sont là, les valeurs. T'sais. Ils ne s'empêchent pas de les rappeler. À plein de moments, ils sont là. Quand ils sont sur la planète avec les sports, machin, etc.
Non, mais puis ça termine par cette idée-là.
Ouais, ça reste là. C'est toujours là, le sous-texte, il est là. Quoi. Genre, on est Starfleet. On fout pas le bordel comme ça, tu sais. On n'intervient pas,
On va pas démolir.
Je veux dire, chaque fois que l'Orca décide de faire quelque chose qui est pas dans les règles, tu sais, c'est comme, attends, on peut pas faire ça là. On est Starfleet. Je veux dire, ils arrêtent pas, tu sais.
Ouais.
Et puis c'est lui qui est l'élément perturbateur. Donc, je veux dire, oui, parfois Burnham prend des décisions exceptionnelles, comment on peut dire.
Mais c'est en même temps, elle réalise à la fin qu'elle peut pas aller contre ce qui est Starfleet.
C'est ça.
Et ce qui est d'être humain
aussi.
Ça fait
partie de ses valeurs à elle.
Ouais, c'est ça.
En tant qu'être humain.
C'est ça.
En plus de faire partie de Starfleet qui... Ouais, c'est ça. Donc je trouve que même sous le côté plus guerrier de la série, enfin de la saison en tout cas, parce que c'est peut-être pas le cas dans la prochaine, je trouve qu'on a quand même le thème de l'exploration, on a quand même tout ça qui est là, tu sais. Parce que je lisais des trucs en ligne, là, puis les gens sont...
Mais je trouve que ça, c'est ça. Moi, je serais pas d'accord avec ces critiques-là parce qu'ils ont choisi d'explorer la guerre contre les Klingons, tu sais.
Ouais.
Puis c'est normal qu'ils soient pas dans l'exploration. Enterprise, il y avait ça, il était dans l'idée de l'exploration.
Ah ouais, c'est ça, ouais.
Mais là, c'est autre chose qui se passe. Ceci dit, la prédiction que j'aimerais qu'on fasse, est-ce qu'on croit qu'ils vont se retaper dans la deuxième saison puis qu'ils vont aller à quelque part d'intéressant, tu sais? Qu'est-ce que va être la deuxième saison? Ça ne peut pas être trop les Romulins, peut-être.
Je sais pas. On va voir.
On les a pas vus dans Discovery.
Non, je crois pas, non. Ils ressemblent à quoi, les Romulins?
Ils ressemblent aux Vulcains.
Ah oui, je vois lesquels c'est.
Oui. En fait, c'est que les Vulcains ont guidé la planète Romulin pour aller sur la planète
C'est les méchants dans le reboot.
C'est le contraire, c'est les Romulins ont quitté la planète Vulcain pour aller fonder une autre colonie.
Dans le reboot, c'est le gros méchant du reboot, c'est ça? C'est un Romulin?
Ah oui, les Romulins.
C'est un renégat.
Non, mais ils sont tout le temps,
ils
volent.
Ils sont agressifs. Okay,
ouais. Ils sont tout le temps, ils volent. Même dans Deep Space Nine, on leur fait pas trop confiance aux Romulins, là. On n'est pas sûrs, là. Ils sont comme. Sneaky. Moi, je les adore, c'est mes préférés. C'est mes Romulins préférés parce qu'ils ont l'air. En même temps, ils sont comme. En gros, quand les Vulcains sont allés dans l'espèce de théorie qu'il fallait que tout soit logique puis de supprimer leur émotion, les Romulins, eux, ils ont fait « fuck that » puis ils sont comme partis, tu sais. Puis ils ont fondé une méga civilisation beaucoup plus grosse que les Vulcains, donc c'est comme paradoxal, tu sais. Puis ils ont envahi une partie du quadrant, puis ils ont développé des technologies, tu sais, mais ils sont pas... Ah non, c'est intéressant.
Ouais.
C'est intéressant, ça, Chuck, parce qu'ils sont plein de... Tu sais, il y a toujours des extraterrestres cool, complètement différents.
Ouais, c'est vrai. Ben, ça me donne envie d'aller visiter les autres séries, en fait. Mm. Ou revisiter celles que j'ai déjà vues, mais surtout visiter les nouvelles que je connais pas, finalement, tu sais.
Ben, Saru, il pourrait évoluer aussi. On pourrait découvrir un peu plus sur lui.
Je pense que tous les personnages ont...
Parce que je trouve que dans chaque Star Trek, il y a toujours un extraterrestre, comme je te disais dans Deep Space Nine, ben, il y a les Dax, qui est intéressant, tu sais. Ouais. Mais il y a aussi les Bajorans, puis les Cardassiens. Les Bajorans et Cardassiens sont comme... Ils sont plus proches de ce qu'est être humain, tu sais. Parce que Dax, c'est vraiment bizarre, tu sais.
Okay.
Mais, ouais, non, c'est une belle série.
Est-ce qu'on a autre chose à ajouter? Moi, j'aime bien le fait que ça soit Bear McCreary qui fait la musique, qui avait signé la musique de Battlestar Galactica aussi.
Ah oui?
Ouais.
Ah.
Puis on reconnaît des petites choses, d'ailleurs. On reconnaît son style de temps en temps.
J'avoue que je n'ai pas porté trop attention à la musique, mais bon, l'ensemble était bon.
Enfin bref, mais à part ça,
c'est
voilà.
Bien réalisé aussi.
Ouais, ouais, c'est bien foutu, bien réalisé. Ouais. Et je sais que même si Brian Fuller, qui était le showrunner au début, a quitté.
Mais il reste toujours son.
Il reste là en tant que superviseur. Mais je trouve que ça se mène bien, quoi. C'est un show qui roule bien pour l'instant. Espérons que.
Est-ce que CBS va continuer à le produire? Est-ce que ça a été un succès pour eux financièrement? Ça, je ne sais pas, je n'ai pas regardé.
C'est
dur à dire à la TV comment ils définissent, c'est les codes d'écoute.
Ouais. Je ne sais pas quel a été le succès.
J'ai l'impression que ça doit être assez...
En tout cas, je sais qu'il y a une saison 2 qui s'en vient.
C'est une série qui coûte très cher, là, ça c'est sûr.
Ouais.
La saison 2 a été confirmée.
C'est pas pour rien qu'ils viennent la tourner à Toronto, ça coûte moins cher.
Voilà. Ça doit coûter quand même assez cher, merci.
J'irais bien visiter les décors, par exemple.
Au Pinewood Studio.
À Pinewood, ouais, ça serait cool.
Ouais.
C'est cool de se dire que c'est entièrement tourné là, pas si loin de nous.
Ah, c'est vrai. On devrait essayer de faire de la figuration. De... Les figurants, ils se font toujours tuer dans Star Trek, là, tu sais. Les...
Ouais, il y a toujours une explosion quelque part, puis tu les vois tomber à terre. Puis,
exact.
Voilà, tu ne les revois plus après.
Essayons d'aller à Toronto avant notre moment de gloire dans Star Trek. ça doit être tellement dur. Là. Tout le monde va vouloir être figurant dans Star Trek.
Ah ouais, tu penses.
Ouais. Mais non, écoute, non, je n'aurais pas rien à rajouter, si ce n'est que je pensais à ton... l'épisode que tu aimes écouter, là, ce qui parle de cinéma, où est-ce qu'ils cherchent toujours des personnages qui ont joué dans Star Trek, dans les films dont ils parlent, là.
Film Sack, dans le podcast Film Sack, ouais.
Là, ouais,
à chaque film qu'ils font, ils cherchent les connexions avec Star Trek, parce que
Star Trek
il y en a
tellement...
eu tellement que tout le monde est passé. Enfin,
ouais, il y a toujours gros,
quelqu'un, il y a toujours quelqu'un, même si c'est un petit cascadeur ou un petit, je sais pas quoi, il y a toujours quelqu'un qui, quasiment à chaque fois, je crois qu'il y a au moins un lien avec Star Trek. C'est assez drôle à chaque fois ce qu'ils font.
Parce que c'est ça, Star Trek. Tu sais, c'est un peu le Doctor Who des États-Unis.
Ouais, c'est vrai.
Parce que même si Doctor Who a comme joué longtemps avant d'être interrompu, il a quand même été interrompu. Star Trek, tu sais, il a été interrompu, mais il a joué quand même longtemps dans différentes incarnations, tu sais.
Ouais. Non, mais c'est important, là, Star Trek. Ouais. C'est comme...
puis là, tiens, on parle de Discovery, puis ça va être vraiment le fun de parler des autres Star Trek, je crois. Là. Faudrait se décider, là. Mais j'aime bien l'idée du Mirror Universe. C'est une façon d'aller chercher
Star Trek. C'est vrai, ça serait drôle, ouais, ouais. Effectivement, ça serait drôle. Je me demande si dans les films, ça a été... exploré, le Mirror Universe. Là, comme ça, j'ai rien qui me vient, mais...
Non, parce qu'il faudrait que le film soit entièrement... Mais peut-être qu'ils vont être tentés de le faire, là.
Enfin, si,
je sais qu'ils ont beaucoup exploré la guerre.
Si je me trompe, là, n'hésitez pas à nous le dire.
Ils ont eu Khan, puis la question de la génétique est très, très... la guerre génétique, là, des transhumanistes, des humains plus intelligents,
ouais,
est très présente dans Deep Space Nine aussi. Ils en parlent beaucoup, là. Les humains génétiquement modifiés. Parce que ça, c'est un thème aussi récurrent dans les anciens. Je pense que dans Next Generation, c'est moins couvert.
Enfin, ils en ont des thèmes à explorer.
Ben, c'est parce que c'est ça, dans le canon, il y a plein de,
ouais,
de petites choses là, qui se passent et qui définissent un peu les obsessions de la série là, t'sais, à la longue. Donc, autant il revient, tu sais, il surfe là-dessus. Donc, moi, je sais pas, le prochain épisode va peut-être jouer, ils vont peut-être avoir envie d'aller retrouver des personnages comme les fameux personnages de Cannes, là, de... ouais. Qui était dans Enterprise aussi, il était présent, ces personnages-là. Il y avait je suis en train de parler de toutes les Star Trek, excuse-moi. Je vais pas m'empêcher.
Ouais. Non, mais je pense qu'on va s'arrêter là. En tout cas, c'est si vous ne l'avez pas déjà vu et qu'on vous a tout spoilé, ben, que ça vous donne quand même envie de le voir, faites-le, ça vaut le coup. Sinon, moi, j'attends avec impatience la saison 2 parce que ouais. J'ai bien aimé ça.
On va checker un coup d'œil là-dessus puis on en reviendra dans nos plugs, là, on en parlera.
Bon, eh bien, d'ici la prochaine fois, si on veut te retrouver, on va te chercher sur Twitter, Facebook. Marie-Louise Garry, et puis sur Facebook. Mm-hmm. Et puis moi, c'est Steadynik sur Twitter, Steadynik. Et pour vous abonner à ce podcast, ben, c'est rendez-vous sur notre site 24quarks.com ou sur iTunes. Et puis n'oubliez pas de nous laisser des petites étoiles, des petites 5 étoiles. C'est vachement bien, c'est très apprécié. Puis ça nous fait monter dans les... Ça donne plus de visibilité, voilà. Et puis écoutez-nous sur Balado Québec, Pod Québec, RZO Web. Suivez-nous sur Twitter, @24quarks, toujours avec un S. Et puis venez jaser avec nous sur notre page Facebook. Ou encore, contactez-nous en direct par courriel à 24quarks, toujours avec un S, @gmail.com.
Puis, moi, je dois dire que j'ai pris une résolution, et ça va dépendre de toi, Nick, mais cette année, à partir de maintenant, donc on commence l'année scolaire, hein, au moins un podcast par mois.
Ouais. Oui, c'est vrai, on a fait une longue pause. Il s'est passé plein de choses.
Il y a des vacances,
Et plein de trucs, affaires personnelles, plein de choses.
Il fallait écouter une série aussi qui venait de 13 épisodes, etc. avec plein de choses autour. Ouais, ouais, je suis sur l'art de rien... Quand tu pars un mois en vacances, c'est pas pour aller écouter des Star Trek, hein?
Non,
d'accord. Donc, il y a comme beaucoup de choses qui se passent.
Non, puis il y a la vie, quoi. Donc, donc, mais oui, on va essayer de oh, je le dis à chaque fois, mais
c'est
vraiment une résolution qui est importante pour nous.
À chaque fois, je te dis, mais, hein? Mais là, j'ai mis cette espèce.
On va essayer de revenir à la.
J'ai mis ce temps-là dans mon.
Ouais, on va essayer de revenir au mensuel. Au moins ça. Au minimum des mensuels. Voilà.
Exactement, une fois par mois.
Voilà, et bien j'espère que ça vous a plu. La prochaine fois, on va revenir avec un film important.
Culte. On peut dire que c'est un film culte.
Ouais. The Matrix.
Yeah.
des siblings, comme ils disent en anglais.
Non, mais ils sont Wachowski. Sœurs.
Elles sont sœurs,
ouais. Oui, c'est ça.
À l'époque, elles étaient frères.
Elles ont été siblings et maintenant, elles sont sœurs.
Voilà. Donc, Wachowski. Donc des Wachowski.
Ouais.
On va s'attaquer au premier uniquement.
Ouais.
Peut-être que les deux autres, on les fera dans l'épisode suivant, on va voir. En tout cas, ça va être ça. C'est un film qui a marqué son époque et les esprits et
Ben,
la
genre.
Technique, le genre, enfin, plein de choses. Ouais.
Et le cinéma aussi.
Ouais. Absolument. Donc, c'est ça. La prochaine fois, The Matrix. En attendant, on vous remercie de votre fidélité et puis on se retrouve très bientôt.
D'ici un mois.
Bye bye.
Had a dream, Neo, that you were so sure was real. What if you were unable to wake from that dream? How would you know the difference between the dream world and the real world?
What is happening to me?
The answer is out there, Neo. It's the question that drives us.
What is the Matrix?
The Matrix is the world that has been pulled over your eyes to blind you from the truth.
What truth?
They're watching you, Neo.
Human beings are a disease. You are a cancer of this planet. And we are the cure.
Get me the hell out of here!
Welcome to the real world.
Program complete.
Get away from her, you bitch!
Shall we play a game?
24 secondes.